Queria mãe, eu botei o seu nome, tá? Só pra dar pra cá, como você não tem? La première étape de la formation, c'est d'essayer de se faire des amis des chrétiens.
Dès que vous êtes chrétien,
ils vont essayer, c'est leur mission, de faire de vous un ami.
Oui, c'est ça.
À partir du moment où vous devenez un ami, il y a évidemment un lien qui est tissé entre la formation et vous. Et surtout,
même si vous ne faites plus partie,
même si vous n'avez jamais fait de formation, il y a un lien qui s'établit
avec eux.
Et ce lien
vous met sous obédience.
On dit,
vous pouvez bien partir en formation.
L'obédience maçonnique, il y a un lien d'affection avec quelqu'un qui fait partie de la formation. Donc, si vous avez un lien d'affection avec quelqu'un, une influence intérieure sur vous.
Et donc vous êtes sous obédience.
C'est-à-dire que les idées qui peuvent surgir en vous, les
tendances
ne viennent pas de vous. Il y a tout un travail
qui se réalise dans
le centre de la pierre première,
entre le corps mystique du Christ
et le corps mystique de la pierre noire, il y a évidemment
une analogie.
Le monde du neuf a toujours trimassé, fait
un analogue
inférieur, dérivé,
et en même temps
déçu
de
ce que Dieu veut faire. Donc Dieu, le Seigneur, il veut faire un corps.
Il a réalisé l'unité de toute la création dans le corps mystique du Christ. Donc elle circule l'unique sang,
l'unique vie de la grâce.
Ah, c'est ça qui fait l'unité du corps mystique du Christ.
Alors, de la manière, il y a un corps mystique de la grâce. Ah, donc, la franc-maçonnerie, c'est
un des éléments
du corps mystique de la grâce.
Et
la première mission qu'on va accorder au. Aux gens, aux membres de la. Aux initiés, si vous voulez. Hein, donc,
la formation, c'est d'essayer.
De faire en sorte que le
chrétien devienne votre ami.
Pour que ce soit lui qui fasse le travail exotérique que vous lui insufflez sur le plan ésotérique. Par divination, hein,
parce que dans son principe,
c'est ça.
Donc, je vous ai déjà donné un exemple.
Peut-être. C'est que pratiquement la loi d'abomination
qui autorise,
qui va autoriser le clonage,
les acteurs
directs sont tous des catholiques pratiquants.
Donc ça veut dire
que c'est l'exploit extraordinaire de la franc-maçonnerie,
c'est qu'ils se sont fait des amitiés avec des catholiques
pratiquants, et c'est eux
seuls qui ont fait la loi qui
abomine le Créateur sur toute la terre,
à titre universel,
à titre légal. Il y a un type de normalisation.
Il n'y a aucun
athée, franc-maçon, laïque
qui ait été l'acteur direct de la loi d'abomination.
C'est tous des catholiques pratiquants.
Tous, sans exception. Hein.
Vous avez parlé de Dominique de Villepin et de.
Villepin, Mattei, Peter Sedam à Marseille, etc. Donc ça, c'est
la première mission, là. Les attaques.
On connaît bien que les attaques, elles sont multiformes.
Bon, le premier type d'attaque,
hein, disons, j'allais dire sommaire, c'est ça.
Bien sûr, j'y viens.
Donc, il y a plusieurs types d'attaques.
L'attaque la plus
visible, la plus évidente,
c'est celle-là. Celle
qu'on peut immédiatement percevoir.
Quoi. Parce que qui n'a pas été
approché avec beaucoup de flatterie, etc., par des membres vivants de la pieuvre noire.
Ouais.
Donc, mais il y a évidemment d'autres filiatas
qui sont plus latérales,
qui sont moins tirées. Il y a d'autres types d'attaques qui sont moins symétriques, qui sont des attaques, collectives, d'autres types d'attaques qui sont sur les enfants, hein, donc on va influer sur les structures. Et il y a des types d'attaques, bien entendu, vous vous en doutez bien, qui sont d'ordre métapsychique, évidemment. Donc, et puis il y a des attaques qui sont carrément
pour vous détruire à distance.
Voilà. Et puis enfin, il y a des attaques infestatoires.
Purement et simplement.
Donc ça, je crois que les attaques sont très
légères. Bon, alors comment est-ce qu'on fait
pour se protéger soi-même, d'accord,
si jamais on est attaqué par la formation?
D'abord, c'est pas tout le monde qui est attaqué par la formation.
Vous savez,
il faut vraiment jouer sur la liste, quoi.
Hein. Oui, donc,
il faut que ce soit intéressant pour eux.
Il faut qu'il y ait des choses intéressantes. Alors, c'est pour ça qu'on a préparé pour vous, chacun d'entre vous, peut-être un fils.
L'ensemble de l'église du nom.
Voilà. Dans cette bouteille, il y a de l'huile sainte, de l'huile bénie, exorcisée, mélangée avec le sélection. C'est votre héritière qui s'est chargé de faire
l'opération,
de faire de table pour
exorciser.
Il y a de l'huile sainte, de l'huile exorcisée, du sel exorcisé. Il n'y a aucune dilution, ni en 2CH, ni en 3CH, ni en rien du tout. Il n'y a aucune. C'est la durmère à l'état pur.
C'est de l'huile?
C'est de l'huile d'olive pressée, première pression. Du sel exorcisé et mélangé avec donc une goutte, parce que j'en ai pas autant que ça, donc. D'une huile miraculeuse qui est sortie d'une statue de Notre-Dame de Fatima. À Quito, où tu pleures du sang. Et la Vierge à Quito,
à Quito, elle dit
ceux qui prendront de cette huile une seule goutte
sur eux.
Ouais, moi je l'ai depuis quelques années.
Dans un petit coton, une seule goutte de ce produit. Donc, attention, ne prenez pas plus qu'une goutte, hein.
Vous n'allez pas boire ça. Hein.
Une seule goutte, donc vous mettez une seule goutte sur un petit coton, vous mettez dans votre scapulaire, vous recousez le scapulaire, et si jamais donc il y a vraiment des attaques, j'allais dire, invisibles, venant des Illuminati, qui sont dirigées sur vous,
oui, pour vous infester,
ça fait comme ça,
boule de billard, tac, tac, ça rentre pas.
J'en ai fait l'expérience personnelle, n'est-ce pas? Aucun rituel, vous mettez une goutte d'eau.
Une goutte de cette huile.
Vous aurez,
je crois, chacun une bouteille. Donc, ça veut dire que vous pouvez, si quelqu'un porte le scapulaire du Mont Carmel,
s'il ne le porte pas, eh ben, il est prié de porter le
scapulaire du Mont Carmel, ou un autre scapulaire. Et dedans, vous mettez
un coton de cette huile.
On appelle ça un sacramental. Hein.
Les sacrements,
c'est vrai que les chrétiens n'ont pas le droit de porter le sacrement de l'Eucharistie sur eux.
Dans une petite custode sur eux comme ça.
Non, moi, je m'en fiche, je porte le sanctif des sacrements.
Là, au contraire, ils sont très fragiles
parce qu'ils sont précisément dans la désobéissance vis-à-vis de la volonté explicite de l'Église et donc ils sont de coup très fragilisés s'ils se permettent de se donner la permission à eux-mêmes de porter le Saint-Sacrement sur eux.
Même un prêtre ne peut pas faire ça. Donc, il y en a que je sais bien qui se donnent cette permission,
il ne faut pas qu'ils le fassent.
Par contre, un sacramental,
la Vierge a fait.
La Vierge, vous savez que les apparitions
de Quito
ont été reconnues par l'Église.
Donc,
une congrégation d'ailleurs est née là-bas
de ça, même s'il y a beaucoup de difficultés dans cette congrégation.
C'est pas aucune espèce d'importance.
Dans toutes les congrégations, il y a des difficultés.
Voilà, donc c'est la vie. Voilà, prenez une goutte de cette huile et mettez-la dans un petit coton et portez-la sur vous.
vous et donc toutes les attaques, j'allais dire invisibles, hein, attention, j'ai bien dit invisibles,
donc la dernière, celle qui sont la dernière nature,
de la liste que je vous ai dit tout à l'heure,
ne porteront
aucun effet sur vous. Mais je crois aussi, ce qu'on pourrait appeler les bombardements, si vous voulez, hein,
oui. Mais il est bien évident que si vous avez des... Il faut évidemment être extrêmement attentif.
C'est pas pour ça qu'il faut couper toutes les relations affectives,
amicales avec
tous ceux qui sont rentrés dans l'initiation maçonnique.
Et donc qui appartiennent à des ateliers.
On doit aimer tous les hommes, je veux dire. On doit être. On ne doit pas refuser toute
relation humaine avec
les gens, même s'ils sont.
Mais il faut être extrêmement
donc vigilant parce qu'ils appartiennent
donc quand même au corps mystique de l'Antéchrist.
Donc le sang noir, la pierre noire circule dans leurs veines.
À raison de quoi?
Eh bien, comme nous, le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ circule dans nos veines.
Hein.
Donc à raison de quoi il faut faire extrêmement attention. Il vaut mieux pas leur serrer la main.
Ils les embrasser.
Vaut mieux pas leur serrer la main.
Vaut mieux pas essayer de
vaut mieux pas,
je ne sais pas comment dire,
se mettre, s'ouvrir à chaque fois en pensant à eux, vous voyez. Et il vaut mieux pas coopérer à une œuvre commune trop spécifique avec eux. Parce que, c'est les sept dimensions de l'âme, vous avez sept moyens
de leur donner
possibilité d'entrer à l'intérieur de vous.
Donc, par exemple, la coopération
très spécifique à une œuvre très spécifique
est une
porte d'entrée. Donc ça veut dire que
on les aime bien, on prie pour eux, on leur donne la parole si ils nous demandent compte de notre foi, on leur en bat.
Vous savez qu'il faut avoir un minimum de charité pour eux.
Alors bien souvent,
on ne connaît pas le catéchisme sur la charité.
Le catéchisme du CM1.
Dans la troisième année de catéchisme. Mm-hmm. Parce que vous pouvez peut-être progresser.
Hein? On peut passer à la troisième année de catéchisme, c'est
là maintenant. Quelles sont les 14 manières d'aimer son prochain, hein? On doit aimer tout le monde, même ses amis. Eh oui, ça va.
Si tu ne sais pas rigoler avec un franc-maçon, c'est qu'il y a un problème. Hein?
Voilà, donc,
il y en a 14.
Vous saviez ça qu'il y avait 14 manières d'aimer son
prochain?
7 manières spirituelles, 7 manières physiques.
Et ça s'appelle les 14 miséricordes du chrétien.
Les 14 œuvres de la miséricorde, ça je me rappelle. On me faisait réciter ça par cœur quand j'étais en CM1. Hein. CM1, c'est l'âge qui est dans
la 8e. Donc,
la 8e. Donc, première chose, il faut
jamais oublier que du point de vue donc,
du commandement, l'amour et les préceptes,
les 14, ça veut dire que tu ne peux pas faire cet acte-là,
si tu n'as pas
celui-là.
Les 14 sont liés.
Oui, ils sont liés.
Ils sont dans un ordre particulier. Très précis.
Et en même temps, tu ne peux pas faire le deuxième.
Tu ne peux pas faire celui-là si tu
n'as pas fait celui-là. Si tu n'as jamais fait celui-là, par exemple, à ton
enfant,
c'est évident que tu ne
peux pas vraiment faire celui-là.
Donc, il y a une acquisition chaque fois d'un ordre.
Tu ne peux pas faire l'un si tu n'as pas fait.
Si tu n'as pas passé par la première cellule, tu ne peux pas devenir une nourriture.
Si tu n'as pas fait une nourriture, tu ne peux pas
devenir une blastocyste. Si tu n'as pas blasté, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'implanter dans le cerveau, etc. Donc, il faut.
Ça crée une certaine conscience, ce truc.
Hein, je veux dire. Alors,
ici, vous connaissez par cœur quand même les 14.
Non, mais
les
14. On les connaît tous par cœur. Mais il va nous les dire.
Les 14 heures de la miséricorde,
les 14 heures de l'amour du prochain.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît au moins un?
Non.
Peut-être.
On va les connaître.
Non,
avant même que moi j'en suggère.
D'abord il faut aimer Dieu.
Ça va arrêter.
J'aurais dit que d'abord le Seigneur
son Dieu. Non, d'aimer ton prochain.
Aimer Dieu d'abord.
Non, d'aimer ton prochain.
Donc tu aimeras ton prochain comme toi.
Non, mais.
C'est pas une œuvre de miséricorde, t'as envie de donner un verre
d'eau, c'est la soif. Ah, ici.
Charité, si tu charité.
Non, tu dis prier pour lui.
Prier pour lui, ici.
Ah, prier.
Pardon, un,
regarde. C'est parce que je t'aime bien que je te dis ça.
Mais toi, t'es franc-maçon. Tu fais quand même partie de la pieuvre noire, hein.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la pieuvre noire ?
Je prends rien, tu fais quand même partie de la pieuvre noire.
C'est quoi la pieuvre noire ?
Ah, voilà le site qui explique.
http://catholique.net
Catholique.
Tu peux y aller, lire tous les documents, tout ce que tu as.
Tu n'en es que.
Ça fait le serment d'Iran, hein, troisième degré. Ça veut dire qu'on me coupe la tête.
Si jamais je trahis le serment que je fais et mon appartenance,
qu'on me coupe la tête.
Voilà pourquoi les descendants des francs-maçons ont souvent
des cancers de la gorge. Et dès lors que
un fils de franc-maçon
ou autre, ils ont des problèmes de cancer de la gorge.
Et si, vous savez,
l'autre, c'est ici
le rituel du quatrième degré.
Qu'on me dépète les entrailles
si je ne suis pas fidèle.
Alors là, c'est des cancers ici pour les descendants, hein. Le cancer, c'est ce qu'il y a de plus.
Alors là, vous pouvez mettre ici tous les.
Comment est-ce que vous appelez ça, les iso machin, les iso trucs.
Bon, ça, là, ici, je vais vous
dire, ça vient d'ailleurs, vous comprenez, hein.
Bon, alors il faut prévenir les pêcheurs.
Bon, toi, tu es au quatrième degré. T'as fait ton serment d'Iran. Tu sais pas ce qui se passe à la 4e, 5e, 6e, au niveau du vénérable. Que tu connais pas en plus, tu sais même pas ce qu'il a fait, tu sais même pas.
Tu sais pas ce qui se passe après.
Au niveau de l'accrétion, au niveau des Illuminati.
Et puis au niveau etc. Et des 13 prêtres,
rudiques qui sont au sommet de tout ça, enfin dans bien sûr le conseil des 33.
Qui sont les 13 prêtres lucifériens internationaux du monde.
Au total quand même, il y a quand même un vrai.
il y a quand même à peu près au moins 46 personnes, 47, 48, 48 personnes qui font le pacte avec Lucifer,
carrément
au sang, pacte de sang.
C'est un pacte de sang.
Et c'est ce sang qui circule dans tout le corps mystique de la fièvre noire.
Toi, tu n'es pas au courant puisque tu es dans la tentature, ici à l'avant-tout XY, tu vas voir ta fièvre qui est là.
Et toi, tu es au courant, tu n'as pas le droit de savoir ce qui se passe ici.
Voilà.
Donc moi, je te dis, je vais t'avertir.
Dis-leur, tu es là, toi, tu es là, tu es là. C'est intéressant, mais tu fais donc partie de la pieuvre noire.
Le sang qui circule en toi, c'est le sang de la pieuvre noire. Ah, mais dis le pécheur.
Mais tu dois déjà passer le pacte.
Avertir le pécheur, premièrement, deuxièmement.
Après, tu te démerdes, hein, ça va, si tu connais des solutions.
Ah oui, mais c'est...
Ah, mais alors, avertir le pécheur. Bon, d'accord.
Dans le deuxième acte
d'amour vis-à-vis des français.
Si t'as pas fait ça, c'est pas la peine de te dire, oui,
je l'aime bien quand même, ce type. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Tu dis à ton gosse, il est dans le péché, tu n'es pas capable de verser à ton gosse parce qu'il est dans le péché, ça veut dire que tu ne l'aimes pas.
Ça veut dire que tu n'as aucune bienveillance vis-à-vis de ton enfant. Puisque tu ne regardes pas son bien.
Si tu ne regardes pas ton bien,
et tu n'as aucune bienveillance. Alors tu vas t'apercevoir
fusionnel avec lui, pour qu'il continue,
pour que les gens s'attachent à lui,
tandis qu'il est en train de dévisser vers le mal.
Donc tu as de la malveillance pour lui,
et en plus tu lui donnes de ton sang pour qu'il continue à circuler dans le mal.
Ah, c'est pareil pour les jeunes, hein,
ils sont fiancés, ils roulent ensemble dans la frange, et bien ça veut dire qu'il n'y a aucune bienveillance.
Puisqu'ils ne cherchent pas, j'allais dire, le bien de leur unité frontale.
Ils le détruisent ensemble. Donc il n'y a pas d'amour entre eux.
Enfin, s'il n'y a pas de sainteté entre les fiancés,
c'est le signe qu'il n'y a pas d'amour humain entre
eux. Et ça, c'est pas chrétien, hein, ça.
C'est toutes les civilisations.
Chrétien, pas chrétien, hein.
Mais c'est les chrétiens qui roulent dans la frange avant le mariage. Parce qu'il n'y a plus de bienveillance, c'est que ça a charité de glacer dans le christianisme.
Alors, donc, avec le pécheur, premièrement.
Oui, mais évidemment, avec tout de suite.
Je ne sais pas si je vais arriver au bout.
Bon, je fais rapidement, hein, une fois que vous avez compris le principe, le reste roule tout seul. Hein.
Avertir les pécheurs. Enseigner les ignorants.
Oui,
la bienveillance que j'ai vis-à-vis de vous et que.
Jean-Claude a vis-à-vis de nous.
Formidable. Enseigner les ignorants. Mais si Jean-Claude nous enseigne, nous les ignorants,
sans nous avertir du mal,
ça veut dire qu'il ne nous aime pas.
Et moi je t'aime bien, donc ça veut dire.
Alors donc, enseigner les ignorants, conseiller ceux qui doutent.
Conseiller
ceux qui doutent. Oh, bon, enfin, vous savez, le catéchisme, hein, excusez-moi, etc.
Ah non, continuez.
Pour supporter patiemment les personnes désagréables.
Pardonnez
les enfants. Et prier pour eux qu'ils soient vivants, pardonner les enfants, pardon, conseiller, consoler.
Consoler, c'est ce que tu disais, écoutez, consoler les affligés. Et enfin, prier pour eux qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts.
Pardonner
les affligés. Voilà, c'est ça de la miséricorde.
Du cœur spirituel. Du cœur spirituel.
Si vous avez du cœur pour votre prochain,
avertir les pécheurs. Ça, c'est quand même bon, je veux dire, bon, c'est instinctif, de toute façon, c'est.
C'est instinctif. Bon,
mais si vous faites attention de ne pas avoir d'idées fixes,
parce qu'il faut faire une bienveillance
spirituelle. Si vous avez une idée fixe,
vous êtes toujours sur la même parole.
Toujours sur la même idée, en disant, voilà.
je t'avertis, espèce de connard, t'as information, information, là, mais tu n'es jamais dans un consolé.
Attention, ce n'est plus une bienveillance.
C'est une idée fixe, donc c'est une psychose, attention.
C'est une névrose.
Donc c'est une idée fixe, donc c'est au minimum une névrose.
Donc attention, pas d'idée fixe.
Donc on n'est pas obsédé par la maçonnerie, pas du tout. On a de la bienveillance. Donc on avertit les pêcheurs, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. C'est clair. Avec lui, j'ai averti, je l'ai dit une fois, donc c'est parti de la violence, t'inquiète pas, je suis au courant. Si toi tu n'es pas au courant, moi je suis au courant. Va donc bien voir
si tu veux la vérification dans http://, catholique du point net. Hein.
Voilà, la rubrique autre religion
et autre culte. Et à la rubrique Illuminati, etc.
Bon, alors.
Voilà, t'as toutes les archives, hein, pas de problème.
Bon, alors, ok. Ensuite, bon, après, c'est hyper facile, hein, après.
Après, bah, du coup, tu peux t'occuper des choses très, très, très basiques, incarnées, tout ça. Donc, tu donnes à manger à ceux qui ont faim,
tu donnes à boire à ceux qui ont soif,
tu guéris les malades, tu donnes un abri à ceux qui sont sans abri. Tu les accueilles chez toi, comme fait Alain.
Tu donnes à manger à ceux qui ont faim, tu donnes à boire à ceux qui ont soif. Tu vas vêtir ceux qui sont nus. Hein, ça, c'est vrai que là, ici, il y a beaucoup à dire. Et enfin, tu enterres, tu vas t'occuper et tu vas vénérer leur corps lorsqu'ils meurent. Donc, tu auras une vénération pour les morts, hein, pour les corps, cadavres. Donc, ça veut dire que tu ne le mettras pas, j'allais dire, à l'incinérateur.
Oui, il en manque un.
Donner un abri à ceux qui sont sans abri, donner un vêtement à ceux qui sont sans
vêtements,
guérir les malades, visiter les prisonniers.
Visiter les prisonniers,
ça correspond à consoler les
actes. Donc,
bref. C'est ce qu'il y a dans l'évangile, d'accord?
Donc ça,
tu pleures avec ceux qui pleurent, Non, mais vous comprenez. Tu fais tout ça le jour où t'as averti.
Attends. Le jour où t'as averti, il faut que tu dises pourquoi,
tout de suite, il va te poser la question.
Si lui-même, son cœur n'est pas complet, s'il n'a pas l'intention de nuire, automatiquement, il va te poser la question, mais pourquoi tu dis ça? S'il n'a pas l'intention de nuire, automatiquement, il pose la question. Il dit, mais
moi, j'en sais peut-être moins que toi sur le sujet, mais
néanmoins, bon,
je te signale quand même que
si tu l'ignores,
que par exemple,
nous, supposons qu'il soit chrétien, le type.
Nous, les chrétiens, dès lors qu'on fait partie de ce camp mystique de l'Antichrist, de la pieuvre noire,
On est automatiquement en dehors
du corps mystique du Christ. C'est pas le même sang mystiquement qui circule dans les deux, c'est tout. C'est pas la même tête. Et d'où tu sors ça?
Ah mais, de ceux qui ont été jusqu'au sommet,
contrairement à toi, de la pierre brunière.
Et qui en mourant, ils
ont dit, attends, je veux pas quand même aller dans le tartare éternellement. Et donc ils ont donné toutes les archives. Donc toutes les archives, elles sont au Vatican, dans l'église catholique, par ailleurs.
Mais pourquoi est-ce que je ne mets
pas des bouquins pour expliquer ça?
Parce que c'est toujours sous le sceau de la confession. Et là, un prêtre préfère mourir plutôt que de livrer un secret de la confession, même si ça doit aider le monde entier. Ok, donc ça va. Voilà. Donc c'est dans la sacrée pénitentiaire. Rome. Mais le prêtre ne peut pas dire.
Mais pourtant, Rome s'est positionné, il est contre.
Non, mais Rome a quand même dit quiconque fait partie en général, quiconque est chrétien, et vous systématiquement, immédiatement et automatiquement
excommunié. Il y a des notes de prêtres et tout.
Non. Oui, mais ils vont dire oui, mais peu importe. Moi, je ne peux pas t'enseigner toutes les archives, les sources, les machins. Si tu veux les sources officielles, vraiment intangibles, incontournables, http://, c'est le site de référence au niveau international en France.
Merci à la personne qui a posé la question.
Ah. Okay.
Jean-Claude, allez-y.
Ah, oh, oh, alors.
Oui, je voulais vous poser une question.
Oui.
Un évêque qui est franc-maçon, un cardinal qui est franc-maçon.
Il est excommunié.
Il est donc excommunié.
Excommunié,
ce facteur. Et l'ordination qu'il a donnée est valide
ou pas? Oui, parce que même la messe qu'il va célébrer opère la transubstantiation, mais lui, il est excommunié.
La messe
était opère la transubstantiation, mais l'évêque est excommunié quand même. Le sacrement passe quand même, malgré qu'il soit en état de péché mortel. Hein. D'accord. Le prêtre, si tu veux, qui, voilà, il est tombé dans le fossé avec une femme sur le parcours du chemin, il est tombé en panne, la nana a essayé de réparer sa roue, en disant mon père, je vais vous aider, et puis il roule dans le fossé enfin, et puis il célèbre la messe après. Il est en état de péché mortel, il y a quand même la messe. Alors, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, pas de dire la messe.
Mais il faut pratiquer les vertus héroïques, mais parce qu'on m'avait averti.
On m'a enseigné comment résister aux tentations. Du coup, je peux conseiller maintenant ceux qui doutent qu'on puisse vaincre ce genre de tentation.
Allez, on y va alors.
Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place la méditation
pour faire du corps?
Bon, alors donc, quelles sont les attaques?
Alors les attaques, écoutez, les attaques, elles sont même plus fortes.
Donc, autre question.
Excusez, on sort un petit peu du sujet, mais enfin, c'est pas grave.
Mise en place du pasteurisateur.
Alors, on va voir si on tombe dans les deux fixes.
Comment se protéger dans une assemblée sans la parole? Ah, je reconnais que bon, si c'est une assemblée.
Alors, le mieux, c'est pas aller dans l'assemblée. Le mieux, c'est pas.
Mais si on est obligé, en raison de son devoir, vous êtes obligé, vous êtes le président de la République, il y a des francs-maçons dans l'Assemblée nationale, bon, vous faites comment?
Voilà, je prends l'huile
et sacramentaux, je reste en état de grâce, je garde l'état de grâce, je reste en communion spirituelle, incarné grâce à mon harmonie avec mon corps spirituel venu d'en haut, et du coup, je vous donne un exemple. Un jour, j'étais moine, je le suis toujours, mais à cette époque-là, j'étais encore aux études, j'étais pas prêt. Et je prends le train de TGV à Creusot-Loire, et puis je vais sur Paris. Et puis, dans mon compartiment, je me suis dit, qu'est-ce que je suis tranquille. Je vois des robes oranges, 4, 10, 20, 30, 40, 60, robes oranges, c'était les moines tibétains du monastère fondé par mon cousin, Denis Huet, etc., qui rentrent dans le compartiment. Parce que j'ai un cousin qui a fait la fondation du monastère tibétain de Rinpoche, de Talou, pas Talou.
Pas son neveu donc, que vous avez essayé de sauver par...
Et qui d'ailleurs s'en sort par sa boue à la porte. Alors, en raison de votre bienveillance, parce que vous l'avez averti. Alors, ce... oui, mais il a un doute sur le fait que tu l'as averti. Et moi aussi, j'ai un doute. Je pense que tu ne l'as pas averti.
Alors, j'ai formé ma directrice.
Ça, c'est pas une bonne version. Tu dis, voilà, je vous donne le sang, mais je vous avertis. Ça vient du Christ. Et vous n'êtes pas avec le Christ. Mais je vous aime bien, je vous aime quand même. Alors,
il faut être clair, il faut être net, il faut avoir de l'amour pour son prochain. Donc il faut lui dire, lui tendre une perche, parce que lui, il ne demande que ça peut-être, qu'une perche lui soit tendue. Si en plus il se relève, il dit, attends, tous les couillons de Chine, tous les sages de Chine, thérapeutes, ils n'ont rien fait pour moi, tu vois, tous les moines tibétains du monde entier, etc., qui ont tous les pouvoirs de taille et des machins, ils n'ont rien fait pour moi. Et c'est un petit péteux de médecin catho qui me relève. Parce que là, il ne sait pas que c'est un médecin catho, il pense que c'est un franc-maçon. Ouais, donc y a pas la perche n'est pas tendue, il n'y a rien. Mais en plus, c'est un mensonge vis-à-vis de lui, je ne sais pas. Il croit que c'est un franc-maçon. Donc il pense que c'est la pierre noire qu'il sauve, encore une fois. Foucault finalement. Mais tandis que si on dit un petit mot, voilà, je vous donne un petit. Vous savez, moi je suis un médecin catholique, j'aime beaucoup les Tibétains. Les médecins, les chrétiens, ils aiment tout le monde, donc vous ne mentez pas. J'aime beaucoup les médecins. Alors, mais au moins, vous dites la vérité, voilà. Vous avez assisté les pécheurs. Alors bon. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais c'est à force de l'éducation. C'est notre éducation chrétienne qui est mal faite. C'est notre éducation chrétienne. C'est depuis qu'on est gosse catho, on n'est pas éduqué comme ça.
C'est vrai.
Ah, du coup, on dit, ah ouais, faut pas lui faire souffrir, faut pas le gêner. Bon, attends, tu peux le faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'onction, mais c'est quand même, je lui tends la perche quand même. Je ne suis pas à dire, quand tu coules dans la mer du Tartare, je ne t'envoie pas la mèche. Au contraire, je te donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de santé pour que tu puisses aller plus loin dans le Tartare. Et non, non. En même temps, je te dis, tiens, si tu veux, tiens, il y a une perche là, si tu veux. Parce que tu vas vers le Tartare quand même, sous-entendu. Hein. Bon, tu n'es pas obligé de dire, tu vas où ça que tu vas. Bon, alors, donc, oui.
Oui.
Alors, oui. Si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être. Non. Bon, alors, très bien. Alors, donc si vous êtes. Oui, non, d'accord. Si t'as rien à rajouter, tu rajoutes rien, ok. Mais si t'as quelque chose à rajouter, tu rajoutes. D'accord. Bah alors, moi, je suis pas contre. Alors, donc comment protéger? Ah oui, donc je monte dans le train avec toutes mes robes oranges, tu vois, les Tibétains qui étaient déjà arrivés au Yaman Moksha, tout ça. Et puis pendant tout le trajet jusqu'à la gare d'Austerlitz. Alors, il pose des questions, alors, parce que, à cette époque-là, j'étais maigre, hein, j'étais ascétique, hein, j'avais la ceinture ici, de 22 grands en moins, quand même, hein. Alors, mais attendez, mais alors qu'est-ce que vous faites comme ascète, comme pénitence, et tout. Et je dis, mais moi je fais aucune pénitence. Ah bon? Mais quand même, à quelle heure vous vous couchez? Mais dis, mais moi j'en sais rien, moi, quand je me couche, ça dépend. Ah bon? Mais point de vue, est-ce que vous prenez vous prenez de viande quand même, minimum? Dis, moi, non, enfin je crois pas, enfin j'y fais pas gaffe. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment vous faites pour faire pénitence, comment vous faites votre ascète. En fait, on est un peu technique, quoi. C'est moi, j'ai pas de technique, moi. Je dis, non, ça ne veut pas vous croire. Enfin, dites-nous quand même quels sont vos horaires dans votre communauté. Vous, c'est variable. Tout le temps, quoi. Eux, c'est des techniques. Alors, on dit, voilà, oui, nous, on travaille beaucoup la sagesse, pour être avec l'agent, tout ça, je commence à l'expliquer, je suis avec l'agent et tout. Bon. Et puis, bon, finalement, je vais passer les détails, mais ils étaient là, et ils me suçaient la panse, quoi. Et puis, on arrive à la gare d'Austerlitz. Et puis je leur dis quand même, vous êtes 50-60 là, vous êtes quand même arrivé à des degrés là, de sagesse en suprême, au-delà du tout, il n'y a pas de doute. Là, je vais vous regarder pour voir la clarté absolue, donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous demander si vous avez un petit peu de compassion pour moi, puisque moi je suis aucune ascèse. Alors, donc, vous allez prier pour moi, pour que j'ai votre sagesse. On va dire, très bien. Oui, voilà, 100 000 sur le quai de la gare de service. On va voir, tu vois, la TGV qui arrive. On est sorti. Déjà, vous avez sorti un tigre au milieu de plein d'endroits. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce sexe? Alors, on est arrivé sur les grands quais de la gare de service. Moi, je me suis mis à genoux comme ça, tranquillement. Ils se sont mis autour de moi et ils ont fait un dôme. Ils ont fait un dôme. Et puis ils ont commencé à Om. Et il y a eu un dôme de lumière, un dôme vibratoire, mais au moins 5 couches. Hein. Au moins 5 couches. Alors attention, il faut dire ça vibrait comme ça, tu vois. Ils y ont mis toute leur pompe. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Toute leur pompe. Hein. Voilà, dans une assemblée, comment est-ce qu'on fait? Alors, j'étais là, parce que ça, les gens, les cathos, ils sont couillants. Ils disent, attention, ils vont parler avec lui, il ne faut pas qu'il soit là, il va rester.
Tu nous casses le pied.
Alors, donc j'étais là, hein, et c'est moi qui leur ai demandé, vous comprenez?
Oui, quand même, alors.
Alors, faut voir là, la puissance de cette... C'est extraordinaire le pouvoir qu'ils ont. Incroyable. Enfin, c'est incroyable, puisque on constate. Donc j'étais là, et puis du coup, moi, j'ai...
Quand même, il y a le sang de Christ, la plénitude, l'Immaculée Conception. Donc je dis, je m'engloutis dans la source vivante de l'Immaculée Conception. Et c'est Marie Reine,
puisqu'ils ouvraient, puisqu'il y avait eu un climat de confiance.
Donc
tout était, la relation était ouverte entre eux et moi. Et mais aussi entre moi et eux, camarades. Oh, voilà, faut pas l'oublier ça. Alors attends, alors du coup, puisqu'ils avaient ouvert, qu'ils pensaient pouvoir me pénétrer avec leurs énergies métaphysiques complémentaires de bodhéité d'Ivan Mukta, hein, ouais, alors à ce moment-là, pas de problème, et avec leurs cinq couches, tout ça, voilà. Irrésistible, n'est-ce pas? Alors, bon, ben du coup, ben voilà, et ben moi je dis, voilà, j'étais là, je dis, bon, alors maintenant qu'ils sont bien ouverts, là, ils ouvrent tout pour m'ouvrir les chakras, pour me faire exploser comme un con, quoi. Alors du coup, je me suis dit, voilà, bon, j'ai dit à Marie-Hélène, elle était là, j'ai dit, ben voilà, vous allez sur eux, là, maintenant. Alors j'ai dit, vous, je l'ai envoyé sur eux. Alors c'est Marie-Hélène, Immaculée, les mères triomphées, c'est réuni. Tout simplement, quoi. Gentiment, pas violemment, hein. Ah, j'ai fait ça une fois, ça, une fois. Mais attention, eux, c'est... en même temps, on sentait bien le... Et puis... C'est rentré sur eux. Je vous dis pas ce qui s'est passé, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Moi, je savais pas à l'avance, hein. On m'avait jamais dit, tu vois, bon. Mais, à ce moment-là, d'un seul coup, ça a fait comme une espèce de... comme un ballon qui explose. BOUM! Alors, j'étais là, bon, attends, j'étais quand même réceptif, hein, par rapport à ce qu'ils voulaient me donner. Bon, mais en même temps, bon, très bien. C'était surtout que, bon, que du coup, bah, qui est la semence de la grâce chrétienne qui rentre en eux, par la lumière. Par la lumière. Alors j'ai juste eu le temps quand même, j'étais quand même en train de prier quand même. Alors donc, donc j'ai le temps que vous disiez, réalisez, tiens, qu'il y a eu quelque chose qui tient la bombe, alors, s'arrête de me rayonner, que vous réalisez ça, que vous vous relevez, que vous réouvrez les yeux, il n'y avait plus personne. Trois secondes, pas plus. Hein. Il n'y en avait plus un seul. J'ai vu juste une robe orange. Waouh, une tête de l'éclair, il n'y en a plus un seul. Non, ils sont partis, mais je ne dis pas complètement incroyable. Ils sont partis à une vitesse, mais là, spectaculaire. J'avoue que je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont. Mais un petit peu, si vous voulez, comme quelqu'un qui regarde le film de Mel Gibson, complètement habité par des puissances contraires, et puis qui a envie de se tirer à toute allure. Il ne sait pas pourquoi. Hein? Bon, eux, est-ce qu'ils savent pourquoi? J'en sais rien. Alors bon, en tout cas. Comment est-ce qu'on fait on prie? On est en état de grâce et on prie pour eux. Voilà, c'est tout. Bon, c'est donc tout simple. Alors maintenant, comment protéger les personnes qui sont soumises à des influences malgré elles, musique, médicaments, aliments, et ne sont pas pratiquantes? Ah oui. Donc quelqu'un, bon, nous on est cathos, ça va, on est protégés, les autres peuvent se crever. Hein, donc.
Non, on est cathos. Hein?
Les cathos ne sont pas protégés.
Les
cathos ne sont pas si protégés que ça. Donc, s'ils sont en état de grâce, ils ne sont pas protégés. S'ils s'ouvrent les chakras, s'ils font le péché, c'est-à-dire s'ils n'aiment pas leur prochain, à ce moment-là, c'est le prochain qui domine, et puis c'est tout, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors, donc, attends, je pense que c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître une chose, que le fait d'être en état de grâce, de faire oraison tous les jours, se consacrer à Marie, quand même, et à la providence de Dieu, Seigneur, quand même, c'était beau, quand même, de ne pas, nous faire naviguer dans les imprudences. Parce que le péché d'imprudence est un péché mortel. Pas oublier, la prudence est la première des quatre vertus cardinales.
Par exemple, vous faites un péché d'adultère, c'est moins grave que de faire un péché d'imprudence. Mm. Puisque l'adultère est un acte contraire à la vertu de tempérance. Tandis que l'imprudence, c'est suprême comme péché. La vertu tempérance, c'est la vertu cardinale la plus importante. Donc, c'est un péché mortel de pratiquer l'imprudence. Enfin, attention, c'est pas n'importe quoi. On fait attention, il faut choisir les bons moyens pour arriver à la sainteté de notre ennemi.
Dis-moi les deux autres vertus, prudence, tempérance.
Foi, espérance, charité sont les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinales sont la prudence dans l'ordre de la justice, la force et la tempérance. Voilà, ça fait sept vertus. Nous avons sept grandes vertus. Donc comment est-ce qu'on fait? Ben, en pratiquant les vertus, tout simplement, et en étant en état de grâce. Mais maintenant, nous avons également, bien sûr, un certain nombre de moyens de procéder. Je veux bien, qui sont les sacramentaux. Bien sûr, on est d'accord. Mais les sacramentaux ont une efficacité qui est proportionnelle. Vous avez une échelle dans l'efficacité des sacramentaux. Elle est proportionnée à votre union avec Dieu. Donc à votre mariage spirituel dans votre raison. Les gens disent, moi je porte un sacramentaux, je suis protégé. Attends, t'es protégé si tu fais oraison. C'est en fonction de la profondeur de ta foi. Et ton union, si tu es dans la cinquième demeure, septième demeure, c'est pas pareil, évidemment. C'est en proportion de la foi. Si la foi est vive, ardente, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier de dire, ah oui, mais moi, c'est seulement dans 10 ans, il faut 10 ans pour la mise en place du corps spirituel, je ne serai jamais à la septième demeure avant 10 ans, donc je suis mal protégé. Inexact de dire ça, parce que si je me consacre à Marie, les sept transformations de l'âme, celles de la septième demeure, de la sixième demeure, de la cinquième, de la quatrième, de la troisième, etc., sont simultanées. La Sainte Vierge, elle joue l'art. Vous voyez, elle a les sept cordes avec vous. Alors, de temps en temps, dans l'oraison, c'est des transformations qui font partie de celles qui se produisent ordinairement dans la septième demeure, puis à certains moments c'est celle de la première demeure, la lutte contre le péché mortel, d'autres fois c'est la troisième demeure, la lutte définitive contre toute forme de péché véniel, etc. Vous voyez? Ok, voilà, donc pas de problème. Si vous consacrez à Marie, tout ça, vous portez ça comme en tout, mais il n'y a plus climat que les conceptions qui vit en vous. Vous êtes dans une... voilà. Il n'y a plus de problème. Mais votre enfant, lui, subit, il fait le jeu de rôle, il a les messages subliminaux qui sont dans le dessin animé, qui regarde à l'âge de 3-4 ans, etc. Tout ça, et tous les dessins animés qu'on voit à l'âge de 3-4 ans, tout ça, c'est bourré. Il y a au moins 7 à 8 messages subliminaux pour se consacrer à ça, par exemple, pour devenir un objet sexuel, pour devenir plus tard, quand tu seras homosexuel. Tout ça, c'est dans tous les dessins animés de Walt Disney. De Walt Disney, à l'âge de 3-4 ans, ils s'abreuvent de ça, après ils ne savent pas pourquoi. Hein. L'autre jour, c'était quand j'étais chez Annie, à Dijon, et j'étais avec, dans le compartiment, avec 5 gosses qui revenaient de colonie, et puis je voyais les 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai regardé je peux regarder ton truc là, les journaux qu'ils lisaient. C'était des journaux, mais les journaux qu'ils lisaient, même moi, j'aurais pas osé regarder ça. Quoi. Même moi, j'aurais pas osé regarder ça. Mais eux, ça brevait ça, et tout ce truc. C'est incroyable. Là, je dis, regardez, mais. Alors, j'avais filé une petite image de Marie. J'avais mis une image sur la vitre du compartiment, une image comme ça de Marie, de Brady Bart, vous savez, celle-là rouge, là où elle est. Alors, c'était là. Oh, je peux la voir et tout. Je vais donner une à chacun. Tout à fait. Alors, moi, je ne sais pas
ils sont abreuvés de messages subliminaux, de machin, de trucs. Je me rappelle, il y a 20 ans à peu près, j'étais dans une grotte. Et là, il y avait un jeune qui voulait se suicider, tout ça, sa mère disait, bon, là, il était venu, moi je sors de ma grotte et tout. Je dis, écoute mon pote, tu veux te suicider, d'accord, t'aimes bien la musique, ok. T'aimes bien Lucifer, c'est très bien, bon, si tu veux, moi je peux pas rejeter Lucifer à ta place, hein. Mais enfin, on a discuté, etc., on a rigolé, on s'est éclaté complètement, tout ça. Et puis au bout de 3 heures, ça y est, il y a eu un petit lien, quelque chose. Bon. Pas grand chose, mais un petit peu. Et alors, j'ai dit, écoute, ok. Ah bah si tu veux garder un petit souvenir de moi, tu prends la médaille. J'ai donné la médaille miraculeuse. Je dis, tu la mets autour du cou. Tu mets là autour du cou. Et normalement, tu pourras continuer à t'éclater tout comme pareil. Mais au moins, tu verras que tu vas pas en arriver à un état complètement débile, au point de te faire vraiment te détruire toi-même, te suicider, tout ça. Bon, alors, très bien. Donc il a porté la médaille. Et alors 2 ans après, sa mère est revenue, voilà, elle a dit, voilà, il s'est suicidé. Et il s'était suicidé une semaine avant. Donc il avait toujours gardé la médaille. Et puis un soir, il est monté. Il a écouté un disque, et dans le disque il y avait les messages subliminaux, mais donne-toi la mort, donne-toi la mort, donne-toi la mort, donne-toi la mort, oui, donne-toi la mort, oui, donne-toi la mort, des Beatles. Mm-hmm. Non, des Rolling Stones, Rolling Stones. Et en anglais, hein, donc, et à l'envers, donc pour décrypter que. Alors, du coup, et puis alors, à un moment donné, donc, il était là, il a arraché ça, la médaille, il l'a jetée. Il s'est mis sur son lit, et puis 10 minutes après, il a pris un flingue et il s'est suicidé. Mais il a d'abord enlevé la médaille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, moi je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à faire, j'en sais rien. Il faut consacrer les gens à la Sainte Vierge et couper les liens entre eux et tous les journaux qu'ils ont lus, toutes les musiques qu'ils ont entendues, couper les liens avec... Mais on va y revenir. Comment protéger les personnes pratiquantes non conscientes? Ah, mais est-ce que c'est à vous de protéger les personnes pratiquantes non conscientes? Les personnes pratiquantes vivent des sacrements. Donc nous sommes dans le même corps mystique vivant que eux. Ça veut dire que... Et par exemple, quand vous dites, quand vous faites une prière chrétienne, les chrétiens sont peut-être pas... sont assez habitués à ce que je vais vous dire. C'est que, vous voyez, c'est le propre du passage de la 4e à la 5e et 6e demeure. C'est surtout ici. Au moment de la purification de la mémoire. Hein. Vous avez donc, vous savez, vous avez la nuit de la sensibilité, la nuit de la mémoire, la nuit de l'esprit, la nuit de la foi. Bon.
La nuit de la sensibilité.
Oui, oui. Alors on passe de toute façon par la croix. Hein.
Oui.
Donc on est humilié par nos propres péchés qu'on ne veut pas. Ça, c'est les 3 premières demeures. Après la 4e demeure, pour passer à la 5e demeure, ça, c'est la nuit de la mémoire. Puis après, vous avez la nuit de l'esprit, et puis la, enfin, c'est les différentes. La croix devient de plus en plus... La nuit aquasée de l'âme devient de plus en plus merveilleusement libre. Vous voyez, la nuit devient de plus en plus parfaite. De sorte que la moindre lumière de Dieu resplendit partout. Vous voyez, ça, plus la nuit est profonde, plus la moindre lumière de Dieu va resplendir partout. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans la nuit de la croix à fond. Sinon, il n'y a aucune lumière de Dieu. Sinon. Alors, donc, mais c'est ce que je vous ai expliqué hier, je crois. Bon, alors, donc, maintenant, c'est le blabla de la vie chrétienne. Alors, donc, maintenant,
comment ces 4 nuits? La nuit des... La nuit de la lumière.
Donc, cassez les pieds, c'est élémentaire. Alors, donc, vous êtes humilié par vos péchés. Vous êtes humilié. C'est l'humiliation, c'est la nuit psy. C'est la nuit psychologique, c'est la nuit psychique. Dis-moi, je fais des péchés, j'aime bien ressentir Dieu, j'aime bien être psy avec Dieu, être un névropathe de Dieu, tout ça, un mystico-dingo, moi si ça m'intéresse, ça me plaît. Bon, ok, ah, bah, oui, alors coup de pied au cul jusqu'à ce que tu renonces à ça, d'accord? Alors, un grand coup de boule, et voilà. Maintenant, toutes tes idées fixes, pseudo-religieuses, dégagez. Alors, en avant, il n'y a que moi qui comprends, il n'y a que moi qui sais, etc. Alors, dégagez tout ça. Il n'y a que l'Église qui sait. C'est tout. Alors donc, ah oui, mais moi j'ai jamais foutu mon nez dans ce que dit l'église. Ah ben, il serait temps que tu t'y mettes. Alors bon, alors, donc maintenant, donc ça la nuit du péché, la nuit du péché, avec ce que ça correspond d'humiliation, etc. Parce que l'orgueil, vous savez, alors, puis après, vous passez à la quatrième demeure, la cuillère de sud, et lorsque vous aurez, lorsque dans votre raison, c'est pour ça que les gens font raison, ils sont incapables de savoir à quel degré de maturité d'amour vis-à-vis de Dieu ils en sont. Le mec, il fait pas raison, il peut pas savoir, et en plus, il n'avance pas. Parce qu'il n'y a que par leur raison que je grandis dans mon amour de Dieu. C'est pas en, hein, c'est pas en faisant la cuisine, c'est si, pendant que je fais la cuisine, je fais oraison. Alors donc, lorsque je suis, je passe la quatrième heure, je suis dans la cinquième demeure, c'est la nuit de la mémoire. C'est génial la nuit de la mémoire.
C'est
ça. Avant, c'est la nuit, au moment de la quatrième demeure, c'est la nuit de la sensibilité.
Mais la nuit de la mémoire, elle correspond à quoi?
Alors avant, la nuit, d'abord la nuit du concupiscible, puis la nuit de l'irascible. Hein, la nuit de l'irascible. Puis après, la nuit de la sensibilité au sens double, du sens commun, de la qualitative. Puis du coup, c'est pour ça que ça passe à la nuit de la mémoire, c'est tout à fait normal. Donc, la nuit de la mémoire, et puis après la nuit de la mémoire, attends, tu te dis, c'est la nuit de l'esprit.
C'est quoi la nuit de la mémoire?
Bon, attends, je ne veux quand même pas faire tous les bouquins sur Jean de la Croix, Saint-Thérèse d'Avila, c'est que si j'ai eu des certitudes de Dieu complètement incroyables, j'ai eu des apparitions même. J'ai une fougue incroyable, mais irrésistible. Et puis, quand je suis dans la nuit de la mémoire, non, j'ai rien eu du tout. Et tout est, parce que non seulement tout est oublié, mais en plus, j'ai une réinterprétation de ce que j'ai vécu, où je comprends que c'était, ce qui n'est pas faux, que c'était reçu quand même, plutôt quand même dans mon imaginaire, même si ça peut, sans doute venait de Dieu, mais ben, tu comprends tout ça, et tu l'oublies, il y a un oubli. Tu perds tes moyens. Ça se traduit dans le concret, dans ce fait que tu perds tes moyens. Tu perds tes moyens. L'autre jour, j'étais avec Daniel Ange, avec 50 jeunes pour faire les IMJ, tout ça. Et puis, au moment clé, bien sûr, à l'endroit clé, tout ça, on s'élève ensemble la messe et tout ça. Et puis, au moment de dire, comme nous l'avons appris, vous voyez, Daniel Ange, comme nous l'avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, sans nous en dire. Moi j'étais à côté. Alors j'ai dit, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors Daniel était là, nous sommes sentis. Agneau de Dieu. Et là, il m'a regardé comme ça. Daniel m'a en fait que des conneries. On ne sait plus où on en est. Finalement, on ne fait plus confiance, on ne peut pas vous faire confiance, c'est pas possible. On ne s'appuie plus sur vous, le supérieur dit, tiens, bah, allez hop, tu vas t'occuper de la serpillière, des chiottes, et ça. Alors, bon, etc. Donc, c'est la nuit de la mémoire. La nuit de la mémoire, il n'y a plus rien à faire, donc on ne peut plus rien faire. Et tu dis, bon, tu perds tes moyens, vous voyez? Parce que c'est extraordinaire, c'est un progrès, hein.
C'est une humiliation.
Mais non, c'est pas une humiliation, c'est sympa. Le plus dur de tout, c'est la nuit d'irascible.
C'est-à-dire la quatrième.
Oh oui, la nuit d'irascible, ça c'est atroce. Ordinairement, ça dure 1, 2, 3 ans. Mais c'est atroce. Ça c'est vrai que c'est très très pénible. Moi, pour moi, c'est ce qui m'a été le plus pénible. Alors maintenant, après, c'est la nuit de l'esprit. Tu es sûr que tu es...
Je suis sûr de ne pas t'irriter parce que tu as traversé la nuit du racine.
Non, non, non.
Explique-moi ce que c'est la nuit du racine.
La nuit du racine, tu es là et tu vois, tu es en train de faire oraison et puis tu entends ton frère qui passe pour dans la chapelle et tu te dis, mais attends, j'ai envie de dégorger ce mec-là.
Tu as des photocopies?
Mais non, mais tu vois quelqu'un qui est là, tu vois quelqu'un qui est là, tu vois ton mari arriver, ton mari est gentil. Mais toi, tu peux raison, tu es là, tu restes devant à Dieu, et puis tu le vois arriver à la maison, il fait un petit peu ce qu'il peut, etc., ce qu'il a à faire, ça c'est dans son fauteuil, il fait ses... Et puis c'est pas, tu as envie de... Tu dis, ce connard, je vais, j'ai envie de trembler, etc. Mais tu dis, ah, puis en même temps, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Attends, il a rien fait, attends, mais pourtant, pourquoi est-ce que j'ai cette espèce de pulsion de... contre lui? Ça, c'est l'année irascible. Et ça, c'est terrible, parce que ça te ronge. Tu te dis, attends, mais c'est complètement irrationnel. Tais-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça dure deux ans de suite, ça te ronge, ça te détruit l'intérieur, l'irascible, c'est terrible. Ça te détruit toutes tes forces, c'est pénible comme tout. Alors, moi, je trouve ça noir, c'est pénible. Ah, dans le mariage, c'est génial. Les gens qui vivent ça dans le mariage, ils sont sauvés. Mais ordinairement, comme ils sont complètement immatures, ils disent, ah, puisqu'on fait ça dans le mariage, on va divorcer. Débile. Alors bon, au contraire, ça va vers la nuit de la mémoire, ça veut dire que la liberté vont fusionner. Alors, ensuite, ça c'est un autre problème. Alors donc, mais il faut aussi passer avant l'énumératif par la nuit du concupiscible. Donc il faut mettre la signification sponsale du corps en place. Donc, l'hippopotame débridé sexuel, terminé, quoi. Hein? Bon, oui, mais on est tout à fait en dehors de notre sujet, je m'excuse. Docteur Jean-Claude, j'en suis désolé. Alors, donc, après la nuit de la mémoire, c'est la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, c'est facile. C'est quand vous êtes dans les sixièmes demeures, vous savez plus ce qui vous arrive. Est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient du démon? Vous avez un doute permanent. Vous êtes un doute permanent. Parce qu'effectivement, est-ce que ça vient de l'un ou de l'autre? Quand vous montez au 7e ciel, c'est le démon. C'est... Parce qu'à ce moment-là, vous savez bien que Dieu ressemble à la lumière parfaite de Dieu. Le démon, il sait, puisqu'il est la lumière parfaite de Dieu. Il est Lucifer. Bon. Il est contemplation de la lumière parfaite de Dieu. Donc quand il se manifeste à toi, tu es bien malin pour dire si c'est la lumière de Dieu ou si c'est Lucifer. C'est strictement impossible. Tu ne peux pas le savoir. Donc, quelque part...
Il est du verbe être.
Il est la lumière de Dieu. L'ange est ce que son nom signifie.
Lucifer.
Il porte la lumière de Dieu. Et si... Mais sans la grâce, tandis que Gabriel, il est la force Gabriel de Dieu qui voit tout, la force de Dieu qui voit tout, Gabriel, mais avec la grâce. Parce que l'autre, il est la lumière de Dieu, mais sans la grâce, c'est Lucifer. Attends, t'es bien malin, toi, pour savoir, pour pouvoir reconnaître.
Mais c'est un E ou un H?
Un E, c'est
si le H est rentré dans son nom, ou si le H n'est pas rentré dans son nom.
Ah.
Voilà. Donc alors, c'est bien malin. Donc, il y a une nuit de l'esprit. Tu commences à comprendre que toutes tes certitudes tombent. Et donc, tu es obligé de naviguer dans la nuit totale. Donc, tu c'est ça la nuit de l'esprit. Puis ensuite, tu as la nuit de la foi. Alors, la nuit de la foi, c'est extraordinaire. Ça, c'est génial, la nuit de la foi. Ça, c'est... Non, mais la nuit de la foi, c'est pas, j'allais dire, c'est presque agréable, hein, parce que c'est reposant, quoi, si vous voulez, au moins vous comprenez, quoi, parce que ce qui surgit de dedans de vous, c'est exactement le contraire de la foi, donc c'est les blasphèmes. Saint Thérèse d'Enfant Jésus, pendant deux ans, hein, pendant son oraison, hein, trois heures d'oraison par jour, elle était obligée de se pincer l'œil pour que ce ne soit pas des débordements de blasphèmes qui sortent d'elle.
Oui, hein. Cet ange, je crois qu'il est resté dans la nuit.
La nuit de la foi. Ça, c'est la nuit de la foi. C'est-à-dire ce que tu sors de toi, c'est le contraire de la foi. Donc, tu es vraiment co-rédempteur. Parce que Jésus a éprouvé tous les sentiments des pires pécheurs. Et en les recevant, il les a fait sortir. Hein, en les portant dans l'abandon. Alors, donc ici, vous êtes vraiment... C'est pour ça que... Là, vous êtes vraiment dans le mariage spirituel. D'accord, vous me suivez? Bon, alors très bien. Alors, là, ça, bon, c'est la doctrine...
C'est pour ça qu'on dit que Mère Teresa a été exorcisée récemment.
La Mère Teresa, elle était... La Mère Teresa, là où elle a été incroyablement, pardon, sixième demeure, là où elle a resté pendant 30 ans au moins, c'est la cinquième, sixième demeure, la nuit de l'esprit.
Elle disait même qu'elle souriait, parce qu'on la voit toujours sourire, et elle disait qu'en réalité, elle souriait jamais, qu'en fait elle se forçait.
C'était pas la nuit de la foi, c'était plus la nuit de l'esprit. C'était, elle était très longtemps dans la nuit de l'esprit.
C'est comme une crise qu'elle vivait.
C'est une nuit. Mais la nuit de la foi, elle l'a connue tout à fait à la fin. Tout à fait à la fin. Vraiment tout à fait à la fin, quoi. Ah, bon, peu importe. Alors, donc, oui, c'était quoi la question en fait, ça m'excuse. Comment protéger les personnes pratiquantes non conscientes? Mais les personnes qui sont pratiquantes, elles reçoivent la grâce sanctifiante. Donc elles font partie du même, du même corps mystique que vous. C'est le corps mystique. Or vous, quand nous sommes là, et dès que je fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aussitôt, je suis projeté, mon corps qui est là, devient le corps du Christ, devient le corps entier du Christ vivant entier. Donc mon corps qui là, c'est au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, il rentre dans la coupe du corps mystique du Christ vivant entier. Ça veut dire tout le corps mystique vivant entier de Jésus rentre dans chacune des petites cellules que je nomme là. Moi, j'en ai 100 milliards de fois parce que je fais 100 kilos. Donc 100 milliards de fois, dans mon corps, c'est tout. Le surgissement de tout le corps mystique vivant, Jésus vivant. Donc tous les membres vivants du corps mystique vivant, Jésus vivant. Donc le petit gars qui est pratiquant non conscient, dès que je prie, je le porte en moi, consciemment. Et donc, je peux rentrer consciemment, c'est comme ça que je fais intercession pour quelqu'un, pour le délivrer, pour l'aider, pour délier ses nœuds, etc. Et je rentre donc au-dedans de toutes les cellules de son corps, en même temps que dans les cellules de mon corps, et comme nous habitons, comme le vin se mélange avec l'eau, et puis je fais avec lui, comme lui, en lui, sans lui, mais comme en communion avec lui en tout cas, les œuvres que je fais pour me protéger moi-même contre les forces du mal, et puis c'est tout. Hein, c'est tout. Donc quand je communie avec la même puissance. Regarde, c'est ce que dit l'Église lorsqu'elle dit, il vaut mieux dire son chapelet à plusieurs que de dire son chapelet tout seul. Ah ben non mon père, moi je préfère dire mon chapelet tout seul. Hein. Je ressens beaucoup plus les mystères. Ah oui, je ressens. Moi, mon père, vous savez, moi, l'Église, j'aime bien ça, mais à condition d'être tout seul dedans. Et quand il y a les autres, quand il y a la messe, ça, les autres, tout ça, je sens pas le truc. C'est pas bon. Vous dites, quand vous dites le chapelet, et que vous êtes 50 personnes à dire le chapelet. Hein? Vous dites le chapelet, premier mystère glorieux. Et puis alors, notre Père, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénis en toutes les familles, et le frère, en plus, quand c'est le Père Patrick, il tue, en plus. C'est quand même dingue. Alors, bon, eh bien, figurez-vous que il vaut mieux le faire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes... mais ce qui est vrai dans le visible est également vrai. À proportion moins gardée, c'est vrai, dans l'invisible. Hein. Mais dans le visible, c'est vrai aussi. C'est sûr que vrai dans le visible. Mais, alors, quand vous êtes ensemble à Dieu le rosaire, vous recevez les grâces de celui qui a atteint le plus grand degré de sainteté dans celui qui... parmi ceux qui disent le rosaire avec vous. Faites un seul corps, physiquement, effectivement, dans la pièce, et la personne qui a le plus de sainteté, le plus d'humilité, plus exactement, voilà ce que dit l'Église, le plus d'humilité, reçoit bien sûr le fruit des mystères en elle, et comme vous êtes ensemble avec elle, vous recevez donc les mérites de cette personne, le seul fait de prier avec elle. Alors vous pouvez toujours dire, oui, mais c'est tous des connards, c'est moi le meilleur là-dedans, Donc je ne vais pas me cacher à dire le rosaire avec eux. Ils sont grégaires comme ce n'est pas permis, ils ne connaissent même pas saint Thomas d'Aquin. Vous voyez ? Bon, alors, évidemment, c'est le plus humble hein, qui apporte le plus de lumière. Alors, voilà. Donc, ok. Donc, si quelqu'un, il n'est pas catholique, il est non conscient, et non conscient, tant mieux. C'est peut-être parce qu'il est dans la nuit de l'esprit qu'il est non conscient. Et donc, il est plus avancé que toi, qui est mystique ou dingo, qui est encore au troisième devoir. Bon, alors, ok. Bon, mais je savais pas que c'était une tâche élémentaire aussi élémentaire qu'il fallait faire. Attendez. Comment savoir où en sont les âmes du purgatoire qui nous sont confiées? Ah, alors là, ça... bon. Alors, pour savoir, vous avez votre père, votre maman, votre fils est mort dans un accident de voiture, et voilà, est-ce qu'il est encore purgatoire? Est-ce qu'il est... il n'y a pas que purgatoire, parce que si vous passez par la mort vous frappe. Alors, votre âme se sépare de votre corps se rétracte, est mis dans le tombeau, et votre âme se sépare. Votre âme prend conscience d'elle-même. Elle reprend donc tous les éléments de liberté actuels de sa vie. Donc, elle a son avertissement à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'avertissement. Hein. Et du coup, elle prend possession tout elle-même dans ce qu'elle a fait par rapport à son oui d'origine. Son oui d'origine qui illumine son âme librement. C'est facile à comprendre. Pourquoi ? Parce que, comme votre corps se sépare, vous n'avez plus de cerveau, le corps n'a plus de cerveau, vous n'avez plus d'irascible de concupiscible, puisqu'il n'y a plus de cellules nerveuses et tout, donc vous ne pouvez plus poser un acte nouveau, supplémentaire, d'affectivité, d'amour, ni de foi, ni d'intelligence. Donc il ne vous reste plus qu'une seule chose, c'est la fameuse étape, votre âme, sortie directement des mains de Dieu dans la mémoire ontologique. Donc c'est vraiment la lumière de l'innocence originelle qui vient éclairer. Donc c'est bien votre oui d'origine qui vient éclairer tout le parcours. Mais d'une manière, évidemment, vous l'imaginez très fulgurante. Et c'est-à-dire que vous prenez à nouveau possession de votre âme dans votre lumière originelle, dans votre liberté. Et donc c'est tout ce qui est dans votre liberté, vous voyez tout ce qui est dans votre liberté, c'est réalisé dans tout ce qui s'est pas fait dans le monde à cause de vous. Mais à cause de votre vous, hein, librement. Pas parce que vous ne pouviez pas, ou ça, ou parce que vous étiez faible, ou autre. Non, librement. Hein? Ça, c'est ça. Donc, deuxième étape, je vous l'ai déjà dit. Du coup, comme vous prenez complètement possession de vous, vous dites, attends, mais alors, est-ce que... Et vous avez besoin forcément d'un rédempteur, ce qu'on dit au début de chapelle, reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un rédempteur. Alors là, pour le coup, on a besoin... Et donc, on se tourne, et d'ailleurs, il est là, vers le jugement particulier. Le jugement particulier, c'est Jésus qui nous ouvre les bras en disant, t'inquiète pas, c'est moi qui vais tout compléter. C'est moi qui complète tout. Mais vous pouvez aussi dire, étant donné que vos choix ne restent fixés d'avant, l'instant d'avant reste fixé après, puisque vous ne pouvez pas faire un nouveau choix, si vous ne voulez pas du pardon de Dieu, de l'union avec Dieu, tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui vous intéresse, vous c'est l'efficacité, la fécondité éternelle ne vous intéresse pas du tout, vous changez pas d'opinion après la mort. Hein. Non. Le mec il a les mêmes idées après la mort qu'avant, hein, donc sauf que c'est pas des idées. Alors, donc du coup, effectivement, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas que le purgatoire. C'est qu'il va y avoir donc, cette fois-ci, sept possibilités. Première possibilité, dit « Ouh, je prends possession de moi-même, je vois tout le bien qui ne s'est pas fait d'accord, mais je suis déjà au courant, de toute façon, et je navigue dans la première position, je vais circuler sur la face opposée de la Lune. » Je parle François Mitterrand. François Mitterrand est de l'autre côté de la face de la Lune. On appelle ça les âmes errantes. Je refuse le jugement particulier. Vous voyez, par exemple, quand on a appris l'histoire du 5-7, j'ai raconté l'histoire de Grenoble, là, cette boîte de nuit où ils ont tous brûlé dans l'année 1972, je crois, comme ça. Je ne sais plus quelle année exacte, je ne me rappelle plus exactement. Mais enfin, quand même, la Vierge était apparue en Italie, en Orient, en France, il va y avoir une terrible... événements, tout ça, tout. Et effectivement, donc il y a eu 5-7 à brûler, à boîte de nuit. 200 gosses qui sont morts en une demi-heure. Ah, pas un seul a échappé. Pas un seul. Il n'y a pas eu un seul. Mais attends, dans ce truc-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est métallique, c'est des consécrations à Satan, c'est des messages subliminaux, etc. Et la Vierge, elle pleurait après l'apparition en disant, il n'y en a pas un seul qui est sauvé. Pas un seul. Donc pas un seul qui va au purgatoire, pas un. Attends, parce qu'on voit quelquefois des gens qui sont « Ah oui, Seigneur miséricordieux, tout le monde ira au ciel. »
Moi, je pensais qu'on pouvait...
Alors, l'Église catholique enseigne ceci. Ceux qui pensent que l'enfer est vide d'êtres humains sont des hérétiques, ça veut dire qu'ils ont abandonné totalement la foi catholique. C'est une hérésie condamnée par l'Église. Tout simplement, donc, vous voyez... Mais ces 200, est-ce qu'ils sont en enfer pour autant?
Non.
Ça veut dire qu'ils sont pour les uns en enfer. Alors voilà, première possibilité, et c'est la plus terrible, directement en enfer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le climat métallique, pouf, de la rip, et puis on meurt, puis on se déchire les uns les autres, on est un connard, on meurt ensemble dans le feu, tout ça. Et puis finalement, c'est comme ça, et puis c'est tout, ils ne veulent pas autre chose. Il n'y a pas un seul qui va, bah, voilà, mais d'autres disent, attends, moi, ça ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est... Voilà, donc ils vont, c'est ce qu'on appelle les âmes errantes, d'accord? Les âmes errantes, bon. Les âmes errantes, il faut prier pour elles, hein, je veux dire, il y en a pas mal. Hein. Bon, si jamais je me tourne quand même vers Jésus, attiré par cette lumière, je dis, bon... Et puis quand même, allez, je m'abandonne. Bon, si le Seigneur peut compléter ce que j'ai pas fait, tant mieux. Bon, je veux bien, quoi, qu'on soit deux.
C'est là toute la miséricorde de Dieu, alors.
Alors, Jésus m'a complété, alors du coup, on rentre en lui, et c'est quand je rentre dans le jugement particulier, que du coup, il va me faire... C'est lui, cette fois-ci. C'est lui, c'est sa passion, c'est sa croix glorieuse. Là, pour le coup, on est dans la gloire de sa croix. Et il va nous faire passer, si on n'en était qu'à la première demeure, et bien par la deuxième demeure, puis par la troisième demeure, dans la purification. Donc, on va avoir des purifications sensibles, instinctives, des purifications végétatives, des purifications psychologiques, des purifications du concupiscible, des purifications de l'irascible, et puis, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, la vie purgative. On aura une étape de vie purgative, puis après une étape de vie illuminative, qui correspond à la quatrième, cinquième et sixième demeure qu'on n'a pas fait dans l'union transformante, parce qu'on n'a pas voulu faire oraison. Et donc les gens qui ne seront pas en raison sont assurés de passer par toutes les étapes du purgatoire, du bas purgatoire jusqu'à parvis. Puis ensuite, après le passage de l'illuminatif, on passe au parvis. Vous voyez? Par exemple, un jour, on nous avait dit, voilà, faites des indulgences plénières pour votre papa, tout ça. Et quelqu'un avait vu notre papa ici. Au bout de 15 jours de prière, et notre papa était ici, il n'était pas au ciel. Il était dans le parvis. Bien, il était pendant ce qui correspond au mariage spirituel, s'il vous plaît. Donc il y a un dernier voile avant la béatifique. Puis le voile se déchire et on rentre dans la vision béatifique. Alors, voilà. Donc après la mort, hein?
On peut voir les gens qui ne sont pas encore passés.
Mais évidemment, on peut savoir facilement où se trouve chacun de ces personnes, évidemment.
Moi, je ne souffre plus là-bas, le voile.
C'est trois dernières qui
souffrent. Si, on souffre encore un peu, puisque on dit que je voudrais quand même dans la vision béatifique.
Oui,
je voudrais être dans la vision béatifique. Quand tu es dans le parvis, tu es dans le voile. Alors, si vous voulez savoir exactement, bon, si vous êtes curieux, sur quoi.
Tu as 17 possibilités.
Eh bien, oui. Et... L'enfer, hein.
La mère.
Deux, après la mort.
Oui.
Après la mort. Un, séparation de l'âme et du corps. Deux, prise de possession de soi. Trois, refus dans l'enfer. Le refus du jugement particulier.
D'accord.
Quoi qu'il arrive. Quatre, je rentre dans la réprobation, mais je veux temporiser encore. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir quand même tous les films je sais pas, qu'un cinéaste connu, j'en sais rien, de tous les films de Spielberg. Il est encore en train d'en composer un, donc moi je ne veux pas en enfer, moi je veux rester, je me balade. Je suis attaché à ma maison paternelle, la propriété, je m'excuse, aller en faire, ça ne m'intéresse pas. Il faut prier pour vos parents, votre père, votre mère, votre grand-mère, le machin, pour dire, allez maintenant tu dégages, hein, on va prier pour toi. Moi je vais prier pour que tu aies l'amour du ciel, hein, pour que tu aies plus le ciel que la maison, notre famille, Spielberg. Et donc je vais mettre un amour du ciel beaucoup plus fort en moi, je te le donne et ensemble je vais aimer le ciel du dedans de toi. Voilà. Bon, je vais me détacher et toc, et du coup le projeter au purgatoire, vous voyez, dans la purification. Ah, oui. C'est tout simple, hein, en fait. Hein. Bon, alors, c'est tout simple, hein. c'est pas compliqué, je veux dire, c'est n'importe qui comprend ça en plus. Bon. Alors, bon. Vous avez, oui, c'est pour ça qu'ici, tous ces gens-là, il faut prier pour eux, bien sûr. Il faut prier pour les âmes du purgatoire aussi, ça c'est évident. C'est clair qu'il faut prier pour les âmes du purgatoire. Hein? Par exemple, si vous faites oraison, voilà, vous faites oraison, vous êtes dans l'oraison de quiétude. Allez, vous faites oraison, vous continuez dans la fidélité à l'oraison. Saint Thérèse d'Avila dit que si vous faites pendant 9 mois une heure d'oraison par jour, vous passez de la 4e demeure à la 6e demeure à tous les coups. Et même à la 7e. En 9 mois. Ça veut dire que si tu fais l'oraison en communion avec toutes les âmes du purgatoire, tu vis le purgatoire. C'est clair. Alors, et ça n'a rien à voir avec le corps, ça. C'est pas la douleur du corps, moi j'aime bien les enfants. Savoir où en sont les au purgatoire. Voilà. Alors, au purgatoire, ceux qui nous sont confiés. Je ne vais pas vous donner les techniques pour.
C'est l'âme qui se fait passer directement,
oui.
Qui sort du purgatoire en fait. C'est l'âme ou c'est Dieu qui meurt?
Alors oui, si vous voulez savoir ce qu'éprouve, pas ce que ressent, pas le ressenti, mais ce qu'éprouve exactement dans leur âme, ceux qui sont ici au purgatoire, hein, foi, espérance, charité. Hein, la sensibilité, donc quand ça permet d'être rentré dans la vérification de la foi, la grâce de la perfection, la charité. Si vous voulez savoir, j'ai écrit un petit livre très intéressant. Voilà. Je ne sais pas si vous le trouverez tous là. C'est sur les bancs. Vous avez peut-être eu la curiosité de le prendre. Ça s'appelle Règle du Sacré-Cœur, mise en place du corps spirituel.
D'accord.
Ça, vous connaissez par cœur, je pense, déjà un tour.
Par cœur. Tout est de CP, hein.
Non, ça c'est pas de CP.
Ça.
Alors, il y a dedans, sauf erreur, mais j'en suis pas sûr, t'as pour le numéro, tac. Je crois qu'il y avait. Voilà. Il y a des extraits d'un livre de Mgr Brinca qui s'appelle Regard sur le purgatoire. Et vous avez le témoignage de quelqu'un qui décrit voilà, exactement ce qu'éprouve une âme du purgatoire quand elle est là. Incroyable, c'est magnifique. Et du coup, en plus, c'est un enseignement merveilleux pour savoir qu'est-ce qui se passe quand vous êtes ici, quand vous êtes là ou quand vous êtes ça. Dans l'oraison, dans votre demi-heure quotidienne. Hein. Si vous ne faites pas oraison, c'est même pas la peine d'en parler, vous allez dans cette direction-là. Automatiquement. Votre vie chrétienne est très humaine hein, en ce moment-là. Bon. Voilà. Mais ça, c'est quand même absolument génial, ça. C'est génial. Mais ça permet de voir un petit peu où, quand tu es en communion profonde avec quelqu'un et que tu lis ça, tu rentres en communion avec cette personne-là, tu fais oraison. Tu vois bien où sont tes combats dans l'oraison. Parce que tu es en très forte communion de charité, voyez, de bienveillance, etc. avec cette personne-là. Donc tu vois tout de suite où est-ce qu'elle en est. Et avec un charisme, disons, de parole de science, le Seigneur te le confirme. Sinon, tu vas t'adresser à des gens qui font raison et qui ont des charismes et qui te disent, oui, bien sûr, il... Bon.
ton fils,
il faudrait peut-être qu'il passe par ce chemin particulier, quoi.
Pardon.
Mais je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'il faut penser des âmes privilégiées comme Maria Sima ou bien Gravi, là, qui vous dit, ben écoutez, votre parent est au purgatoire, pour l'en dégager, il faut faire dire une neuvaine, il faut faire dire deux neuvaines.
Oui, alors, moi, je peux vous dire uniquement ce que dit l'Église catholique. Maintenant, les mysticaux, tout avec tout leur charisme le plus vénérable qu'ils soient, Irène, Maria Sima, etc., j'en sais rien, je ne les ai jamais vus. Je ne sais jamais rencontré, je sais qu'ici, il y a plein qui ont rencontré Irène, d'autres qui ont rencontré Maria Sima, tout ça. Alors, je les aime bien, je les aime bien. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que dit Maria Sima, je suis là pour dire ce que dit la doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église, elle dit quoi? Elle dit que si tu es chrétien, sache que même le prêtre, si tu vas te confesser à lui, a un pouvoir d'absolution sur toi. Ça, c'est clair. Mais qu'il va te donner une pénitence. S'il ne te la donne pas, tu la lui demandes. S'il te la refuse toujours de te la donner, tu prends la pénitence précédente. Et c'est pendant ta pénitence, il y a un livre très intéressant sur les bancs, qui est écrit par un espèce d'ermite, un sanglier dans une grotte, là, qui s'appelle Mystère de Confession, et qui explique tout ça. Et qui explique tout ça, c'est que au moment, le moment le plus important de la confession, c'est au moment où il te donne la pénitence. Parce que tu prends la pénitence, et après tu pars avec ta pénitence, tu t'assieds, ou tu te mets à genoux, le bras en croix, et tu fais ta pénitence. La pénitence, c'est par exemple de dire « Jésus, je t'aime. Dieu, quand même, le Père m'a donné. J'ai étranglé ma mère, j'ai spolié mon frère, j'ai dénoué ma profession, j'ai violé ma cousine, ça, tout. » Et il me dit « Comme pénitence, tu vas dire « Jésus, je t'aime, point barre. » Et c'est foutu de moi. Eh ben non, il s'est pas foutu de toi. Pourquoi? Parce que pendant la pénitence, tu la prends bien, la pénitence, hein, parce que c'est le plus important de la confession. Tu te mets à genoux, et c'est pendant la pénitence que tu vas recevoir la présence réelle du sacrement. Et la présence réelle du sacrement, c'est du dedans de toi, tout le sang palpitant, glorieux, d'amour de Jésus, pas une seule goutte ne manquant, pas une seule goutte ne manquant. À qui tu fais crier ta prière. Ça, c'est Jésus, dans son sang palpitant d'amour, avec donc une puissance sans limite, qui fait cette prière. Oh, il m'a donné une pénitence qui dure seulement 3 secondes, imbécile. Le sang précieux du Christ pendant 3 secondes. Et donc, il répare tout. Donc, l'absolution t'a seulement nettoyé La grosse tache, la grosse clope qu'il y avait dans ton âme, il l'a remplacée par de la grâce. Mais, quand tu avais fait ce péché, il n'y avait pas qu'une tache dans ton âme, ça a éclaboussé tes enfants, ça a éclaboussé, invisiblement, ça a éclaboussé les murs de ta maison, ça a éclaboussé toute la nature, ça a éclaboussé le cosmos tout entier, ça a éclaboussé l'Église de Jésus, ça a éclaboussé le cœur sacerdotal du Christ avec lequel tu es en relation directe physiquement par le sacrement baptême, ça a éclaboussé, etc. Ça a brisé pas mal de trucs. Hein. Donc le sacrement d'absolution te remet la grâce dans ton âme, mais ici c'est toujours ici brisé, éclaboussé, détruit, etc. Tout ça pour le réparer. Donc si toi, Seigneur a réparé pour la petite tache dans ton âme, ou la grosse tache dans ton âme, il est temps que toi, du coup, tu prennes du coup la présence réelle du sacrement, et que tu donnes l'autorisation à Jésus de réparer ici, là, 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 et là, et là. Donc le plus important, hein, c'est où dans sa grande pénitence, c'est dans la présence réelle, dans son application féconde, universelle. C'est pour ça que le sacrement est catholique. Parce qu'il ne s'arrête pas à toi. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement, c'est pour ça qu'on est catholique. C'est pour ça que, par exemple, le bouddhiste tibétain, là, qui est là-bas de l'autre côté, qui est sympa, qui fait plein d'ascèses et tout, j'allais dire, toi tu fais ta pénitence,
et tu as reçu l'absolution, pendant ta pénitence, l'absolution catholique, sacramentelle, réelle, pénètre dans l'âme du Tibétain, si à cet instant-là, il a l'âme largement ouverte à la présence de la grâce, en le sachant ou sans le savoir. C'est pour ça qu'il est dit, vous voyez, ça c'est quand même important de comprendre ça. Donc ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit Église catholique. Et c'est pour ça qu'on dit hors de l'Église, point de salut. Parce que c'est ceux qui vivent des sacrements, à condition qu'ils prennent la présence réelle dans le fruit du sacrement, que le sacrement est reçu effectivement en plénitude. Dans tous ceux qui, à cet instant-là, ont l'âme largement ouverte à la présence de la grâce. Donc le mec, après le bouddhisme, il va se retrouver à son jugement particulier, il va se retrouver dans Jésus, il va dire « Mais je suis tout plein rempli du sang précieux de Jésus-Christ qui demande pardon à Dieu le Père pour tous les péchés du monde, pourtant j'ai jamais reçu le sacrement de pénitence. » Le Seigneur Jésus, il va dire « Mais si, bien sûr, puisque cet imbécile de Jean-Claude, après sa pénitence, il a appliqué à tous ceux qui avaient l'âme largement ouverte à la présence de la grâce dans le monde entier. Ah bon, c'est la grâce de Jean-Claude que j'ai reçu l'absolution. Et oui, j'étais catholique sans le savoir. » Eh ben oui. Alors, de l'église, écoutez-vous. Ok, alors bon, c'est pareil pour les autres sacrements, hein. Sacrement de mariage, vous croyez quoi? C'est uniquement dans ma dispensale et moi, quand je suis la présence réelle de la messe pensale, dans la transactuation surnaturelle du sacrement? Bah, vous allez me dire, je sais pas comment on fait pour la transactuation surnaturelle du sacrement. Alors, pareil pour tous les autres sacrements, c'est pareil. C'est pareil pour tous les autres sacrements. Alors, donc c'est pour ça que les sept sacrements sont très importants parce qu'ils vont irriguer chacun une des portions sanctifiantes de l'humanité. L'intelligence contemplative, le cœur spirituel, l'union avec toute la nature, l'intériorité du monde et des hommes, la collectivité humaine tout entière, leur union transcendante avec le Créateur dans l'aller et le retour, et enfin, la transformation géniale du monde dans la beauté. Et c'est pour ça qu'il y a sept sacrements. Bon, très bien. Bon, alors, bon, ça, c'est un autre problème. On n'y était pas. D'accord. Ok. Alors, parce que le but, c'était. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut penser de Maria Sima? Bon, alors, eh bien, il faut penser que l'Église est plus intéressante que Maria Sima. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle dit, l'Église catholique? Qu'est-ce que dit Jésus, au fond, à travers les apôtres?
Il dit quoi?
Il dit. C'est bien que tu reçois la solution. C'est encore aussi très, très, très bien que tu fasses la pénitence. Pour que Jésus puisse préparer ça. Mais comme peut-être que tu as un petit peu de tiédasse dans ta pénitence, il serait quand même assez intéressant que tu puisses compléter ta pénitence par une indulgence plénière.
Une pénitence quoi?
Par une indulgence plénière.
Comprenez pas les protestants.
Indulgentia plenaria. En latin, c'est beaucoup mieux. Hein. Indulgentia plenaria. Indulgence plénière. Alors, si tu as quelqu'un qui est ici, je reconnais qu'il faut qu'il soit dans le jugement particulier. Ça, c'est vrai. S'il est là. Mais, s'il est rentré dans le purgatoire, et que j'obtiens pour lui une indulgence plénière, eh bien, il est projeté dans l'instant même où tu lui as obtenu la souveraineté dans le parvis.
Ah, super. Ce qui nous a été offert par l'Église, là, au jubilé l'an dernier.
Ben, par exemple, pour avoir une indulgence pleine. Alors, vous lirez ça dans le livre de confession ou dans un site très intéressant qui s'appelle http://catholique.net. qui est le site. Il y a le numéro 1 au Ipharas. De tous les sites à thème religieux, spirituel, ésotérique, etc., toutes les religions de toutes les langues françaises, c'est le numéro 1. Voilà. Au Ipharas, passion. N'est-ce pas? Bon, les gens sont passionnés. Alors, si vous êtes peut-être des gens qui ne sont pas passionnés, vous êtes priés d'aller sur Internet au site catholique du net, où il y a une espèce de sanglier dans une grotte qui est en train de tapoter pour compléter votre. Très bien, donc c'est vrai. Et vous verrez là. Qui est dans la bibliothèque, il y a un certain père Nathan qui a écrit un livre qui s'appelle Mystère de confession. Alors, vous cliquez, tac, tac, zup, zup, 1 minute 30, vous avez sur votre écran le mystère de confession, 150 pages. Voilà. Et vous verrez à la page 147 comment on fait pour avoir, page 147, l'indulgence plénière. Et pourquoi? Pourquoi Jésus a voulu qu'il y ait cette indulgence plénière? Pour faire l'indulgence plénière à quelqu'un qui est là, il faut faire un acte de charité surnaturelle, fraternellement parfait. Et pour être sûr que mon acte de charité fraternelle vis-à-vis de lui est surnaturellement parfait, parce que dans ma pénitence, je ne suis jamais sûr que ma pénitence est surnaturellement fraternellement parfaite, alors, du coup, l'Église a inventé, dans son pouvoir des clés, un truc complètement génial. C'est la plus inspirée. Alors, j'ai cinq actes à faire, et l'Église, elle prend les cinq actes pour que ça fasse une indulgence plénière. Parce qu'il faut qu'un acte soit fraternel, un amour de charité, surnaturellement parfait dans notre monde humain fraternel, il faut que j'aime tout l'univers, il faut que j'aime totalement Dieu, il faut que j'aime totalement l'Église, parce que vous voyez, c'est tout ce qui est détruit par chacun des péchés. Hein. Il faut que j'aime totalement moi-même, il faut l'amour de soi aussi, hein. il faut que j'aime dans toutes les directions, dans un seul acte.
Impossible.
Si, c'est possible, bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Alors, donc, il suffit, pour aimer le Christ que j'ai blessé,
c'est possible.
Je vais recevoir le sacrement de l'Eucharistie, avec beaucoup d'amour. Je vais me confesser une fois pour atteindre tous les hommes. Je vais faire un acte d'adoration parfait pour récupérer toute la création et l'emporter avec moi dans mon acte d'adoration à l'intérieur de Dieu. Je vais prier pour l'Église, c'est-à-dire je vais prier au nom du Pape, je vais mettre dans la peau du Saint-Père. Et dans la peau, je veux dire, notre Père, dans le nom de l'homme et de la femme, Germain, toutes les plus. Voilà, et voilà, je vais prier au nom de du Saint-Père, qui lui porte toute l'Église. Donc, tout ce qui est fait, c'est l'Église, c'est intégré. Et puis ensuite, vous allez faire un acte avec la plus grande ferveur possible, celle qui, précisément, vous remet même entre les mains de Dieu, dans votre intention, et c'est précisément l'indulgence plénière. C'est le petit bouquet de fleurs qui réunit les quatre autres que vous avez fait à des moments différents, d'accord? Donc, si vous faites ça, le mec, c'est votre maman, ma fille, j'ai bien fait l'affaire, moi qui ai pensé l'avortir un premier temps, mais c'est heureusement qu'elle était là, quoi. Bon, ok. Alors, très bien, parce que quand même, deux siècles de purgatoire, c'est chiant, hein. C'est chaud, surtout, quand c'est là. Alors, oui.
Le bouquet, donc, les colonnes.
Ah, ben le bouquet, alors. Le bouquet, c'est page 147. C'est http://catholique.net. Alors, donc, c'est le pot. Vous pouvez obtenir une indulgence plénière par jour.
Et tu ne dis pas que c'est un bouquet. Mais
qu'est-ce qu'il y a,
si vous vous confessez tous les 15 jours, si vous communiez tous les jours, si vous priez pour le Saint-Père tous les jours, si vous faites un acte d'adoration par jour, vous avez vos quatre conditions qui sont là tous les jours. Donc il ne reste plus qu'à trouver l'œuvre que l'Église catholique vous propose pour vous trouver vous-même dans la confiance en Dieu pour qu'il complète ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, quelles sont les possibilités? Là, vous avez 1000 possibilités.
Quelle œuvre?
Parmi elles. Bon, je vous en donne quelques-unes, si vous voulez savoir toutes les possibilités, vous allez sur le site http://vatican.va. Voilà. Et vous allez sur Paul VI, vous allez sur Saint-Père, vous allez sur Paul VI, et vous allez sur l'âme qui rigionne un de bien cerveau. L'âme qui rigionne. Indulgentiarum, qui vous explique en latin tout ce que je vous explique en français.
D'accord.
Bon, mais si vous préférez l'avoir en français, vous allez sur le site http://catholique.net. À la rubrique prière.
On voudrait bouquer.
Bon, alors maintenant, quelles sont les possibilités? Vous voyez que j'ai fait passer devant Vatican. Si vous avez pris les quatre conditions, c'est les quatre pieds de la table. Vous mettez le pot de fleur au milieu. Ce pot de fleur, ça peut être un pot de lys, un pot de violette.
Bon, d'accord, oui.
Mais tu le sais bien, toi. Comment faire une agence tu l'as pour ton père, tu n'as pas essayé d'obtenir au moins trois fois une agence.
C'est le revers, notre père.
Si vous dites à plusieurs, si vous dites à plusieurs, avec d'autres, le rosaire entier, indulgence primaire. Si vous n'avez pas le temps, vous dites à plusieurs, le chaque entier, je crois en Dieu, notre Père, trois jours humains et gloire au Père, et les cinq mystères glorieux, à plusieurs, ensemble.
À que les glorieux.
Seulement un mystère glorieux, si, vous pouvez aussi. Si vous dites, bon, j'arrive pas, personne ne veut dire le rosaire avec moi ou le chapelet. Bon, hein, très bien. Vous pouvez du coup aller dans une église, vous mettre tout proche du tabernacle, enfin, dans regarder le tabernacle, et en communion, parce que vous êtes plusieurs, parce que Jésus est dans le tabernacle, et vous dites le chapelet et le mystère glorieux du rosaire avec Jésus dans le tabernacle.
D'accord.
Ah oui, mais si l'église est fermée, je ne peux pas le faire dans le tabernacle. Ah bon? Et c'est aujourd'hui que je veux la délivrer immédiatement, parce que vous connaissez l'histoire de Saint Jean Bosco avec son copain prêtre, il s'était dit, écoute voilà, on est copains au séminaire, le premier qui meurt, c'est tout de suite dans la minute qui suit, fait l'indulgence plénière, que je ne reste pas plus d'une minute dans ce truc-là, quoi. Voilà. Donc lui, il apprend 3 minutes après que son copain vient de mourir, vite il fait l'indulgence plénière, et il a l'apparition de son copain prêtre. Il dit, pourquoi t'as attendu plus de 10 ans?
C'était une minute.
Oui, c'est bien longtemps, mais oui. C'est quand même des purifications un petit peu de... Vous voyez, bon... Alors, on ne dort pas, de toute façon, on ne dort pas, hein. Chaque dixième de seconde. Alors, donc, toi, tu ne dors pas, ça c'est certain. Le mec, il fait oraison, moi je fais oraison. En oraison, on ne dort pas. L'oraison... C'est silencieux, mais c'est actif, c'est violent. On s'arrache. On est réveillé dans le silence vivant du Christ, hein. Ah, c'est pour ça qu'on fait des actes de foi, des actes d'adoration. Dis-moi, moi je suis français. Voilà, du coup, je fais oraison sur la manière de Madame de Maintenon dans le quiétisme. Je préfère faire oraison dans la position horizontale. D'accord. Ok, alors donc vous avez compris qu'il y avait un problème. Alors, c'est condamné par l'Église, hein, hérésie pratique, hein, le raison de quiétisme. Alors, donc où est-ce qu'on en était? Ah oui, donc, ah oui, autre possibilité, vous pouvez assister, je ne sais pas moi, vous allez au monastère de Bénédictin, monastère bénédictin du Grand Ordre, du Cistercien, et si vous assistez à la messe conventuelle, indulgence plénière. Vous pouvez assister à une première communion, indulgence plénière. Vous assistez à l'anniversaire de sacerdoce ou à l'ordination sacerdotale, indulgence plénière. Moi je suis paralysé, je suis fatigué, je suis super, je ne peux pas faire tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Tu peux quand même lire. Bon, si tu fais la lectio divina, c'est-à-dire si tu lis la Bible plus d'une demi-heure, indulgence plénière. Dans ta chambre, tu lis à mi-voix, comme ça, tu lis sans t'arrêter la Bible, indulgence plénière.
Est-ce qu'on peut faire dire à titre préventif des messes pour soi, quand on sera de l'autre côté, le neuvaine.
Oui, on peut le donner dans le testament avec un chèque.
Bien sûr, chacun dans son testament doit dire.
Non, mais à titre préventif, vous faites pendant votre vie, vous faites dire des messes.
À titre préventif, tu mets avant que je ne meure, je mets dans mon testament.
Non, c'est une bonne maintenant.
Oui,
après ta mort.
D'accord. Avant que je ne meure, je mets dans mon testament que un trentain doit être dit.
Non, il te dit avant. Ah, oui, oui, de son vivant.
Avant de mourir, il met dans son testament déjà pour commencer.
Ah, oui. Hein? Et actuellement,
bah, actuellement,
bon accord, quand tu la suite.
Actuellement, ce que tu peux faire, c'est de dire, je vais, pas, si tu veux anticiper le purgatoire, c'est l'oraison. Je voulais expliquer. Si tu veux anticiper le purgatoire, c'est l'oraison. Parce que ce que tu n'auras pas fait dans l'oraison, c'est ça que tu feras au purgatoire. Puisque le passage des différentes purgations ne se fait que dans l'oraison. Bon, les gens qui font du coup jamais l'oraison, ils vont mettre par exemple 50 ans de vie chrétienne à faire ce qui peut se faire en 9 mois d'oraison. D'accord ? Alors, c'est quand même pas très compliqué. Si tu veux anticiper le purgatoire, c'est l'oraison. Bon, si tu veux anticiper le purgatoire, dis-moi l'oraison. Je ne sais pas, je ne suis pas bénédictin, puis... Alors, je vais à la messe, je vais à la messe tout... Il n'y a qu'à aller à la messe tous les jours, moi je dis ça, hein. Je vais à la messe tous les jours, donnez aujourd'hui notre pain, ce consubstantiel, chaque jour. Donc, je vais à la messe tous les jours, et au moins quand je communie à Jésus, je fais quand même... Mais, je suis presque obligé, si je puis dire, de faire quand même un quart d'heure, 20 minutes, 25, d'action de grâce, quand même. Et ça fait quand même mon horizon quotidien, finalement. Oui. C'est pourquoi? Oui. Bon, évidemment, au lieu que ça prenne 9 mois, ça va prendre 2, 3 ou 4 ans. Mais enfin, ça ne prendra pas 50 ans pour passer à certaines demeures, etc. Non. Moi, je pense que c'est ça. Je crois que s'il faut... Bon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour délivrer les âmes du mal? Ah oui, alors du coup, oui, mais attends, moi, mais... Oh là là, mais lui, j'ai bien peur qu'il soit ici, là, le maître, hein. Jésus, c'était pas sa folie, hein. Il y a des gens, si tu veux, qui sont encore dans les premières demeures, mais Jésus, c'est tout pour eux. Ils sont hystériques, tout ce que vous voulez, mais mystico-dingo, encore dans le sensible et tout, mais Jésus, c'est tout pour eux. Bon, mais il y en a que Jésus, ils n'ont absolument rien à cirer, quoi. Hein. Rien. Alors, c'est pas leur problème. Hein. Donc, mais alors, pas du tout. Alors bon, les âmes errantes, on fait comment? Oui, ça c'est une question, vous savez, parce que... Alors, et puis, eh bien je vais vous dire, les âmes errantes, il faut faire avec eux... j'ose pas vous expliquer. Bon, il faut faire avec eux, à peu près, mais avec une nuance, oui. À peu près la même chose que ce qu'on fait avec les âmes des enfants avortés, hein. Les enfants avortés, ils ne sont pas au purgatoire. Ils sont encore dans le temps de la terre. Et ils sont encore dans la phase du péché originel. Ils n'ont jamais pu faire un acte de foi implicite, ni de foi explicite. C'est pour ça qu'on leur parle, on les appelle par leur nom. On leur dit, venez, je vous prends dans mon cœur, je vous prends dans mon cœur. Et dans le cœur de Jésus, ensemble, on va un petit peu naviguer, de manière que ce qu'il y a dans le cœur de Jésus vienne un petit peu dans votre cœur, que vous ayez la grâce. D'accord ? Donc il faut faire un petit peu avec les âmes errantes, un petit peu la même chose. À la nuance près que les âmes errantes, elles ont quand même des idées. Elles se sont forgées des opinions, elles ont des peurs, elles ont des angoisses, elles ont des a priori. Elles pensent, si c'est des âmes errantes de musulmans, par exemple, ils pensent que les chrétiens, c'est des salauds. Ils pensent que Jésus n'est jamais mort sur la croix. Donc quelque part, vis-à-vis des adhérents, il faut repérer, il faut sortir, il faut comprendre. Dire, attends, tu es là, il faut quelque part... l'autre jour, je suis allé avec certaines personnes que je ne nommerai pas, à Gergovie, on a fait une mission. Bon. Parce qu'on nous a dit, là où Raël, vous savez que je m'intéresse au clonage. Donc Raël a fait son initiation avec le troisième prince de l'enfer, à Gergovie, là où Père Salvatore a vaincu Jules César. Donc il y a eu là plus de 120 000 morts, entre les Romains et les Gaulois. Mais c'est Père Salvatore qui a gagné la bataille. C'est à l'époque de Jules César, donc moins 50 avant Jésus-Christ, il y a 2070 ans. Alors, donc, on est allé là-bas, parce que figurez-vous qu'il y avait encore plus de 80 000 soldats qui étaient encore là, depuis 2070 ans. Donc, effectivement, le complexe, c'est ça le problème, c'est un des problèmes, c'est que le démon, il sait que ceux-là, César, sont pour lui, jusqu'à la fin. S'il s'en sort pas, il peut s'en servir, il peut difficilement servir ceux qui sont en enfer, mais il peut servir des réprouvés. Ça, c'est des réprouvés. Ils ne sont pas dans le salut, ils ne veulent pas. Bon, donc le démon, il peut se servir d'eux pour influencer les êtres humains. D'ailleurs, dans les rituels de la Rose-Croix, par exemple, quand vous arrivez à la maîtrise de la Rose-Croix, c'est des rituels pas tout à fait spéciaux pour récupérer tous ces gens-là et les faire œuvrer dans l'intervention, j'allais dire, enveloppante d'une communauté, d'un groupe, d'une réflexion, etc. Sartre, par exemple, Jean-Paul Sartre était grand maître de la Rose-Croix. Il savait parfaitement que les âmes étaient immortelles puisqu'il faisait c'était son ministère. Et pourtant, il professait l'athéisme à la Sorbonne. Non, pas bon, ça c'est un autre problème. Ça n'a strictement rien à voir. Donc nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on dit, ah oui, donc on est allé là, on a prié, on a. Alors c'est marrant parce que c'est là qu'on s'est rendu compte que tous les Gaulois s'étaient mis autour de leur divinité, tous les Romains du côté de Neptune, là-bas, dans la direction de l'antenne, où il y avait un ancien temple de Mercure, une divinité romaine, et les autres, ils étaient là, et alors ça faisait des trucs. Hein. Alors, donc on s'est tourné vers les uns, et puis on a célébré la messe au milieu de trois fois, une mystiquement, une deuxième réellement, une troisième à plusieurs, et on a célébré la messe pour eux, on les a convoqués. Alors ils ont assisté à la messe, et puis ils ont versé un mot, alors on leur a expliqué, voilà, d'accord, je sais plus tout Atis, c'est la divinité gauloise, bon, c'est ceux qui ont lu Obélix, c'est tout ça, bon, alors, tout Atis, alors on a expliqué, voilà, bon, vous savez que Vercingétorix, il n'est pas avec vous, oui, bien sûr, puisqu'il est mort à Rome, et du coup il s'est retrouvé là. Mais figurez-vous que il y a trois mois, on a pu parler avec lui, alors il nous a dit, mais c'est vraiment intéressant ce que vous nous racontez, moi, est-ce que je pourrais pas recevoir le baptême, moi, je voudrais recevoir ça. Et il a demandé à rentrer dans la lumière surnaturelle de la foi pour sortir du monde de tout Atis. Donc c'est votre chef, c'est votre chef qui l'a demandé.
Comment tu sais qu'il a fait ça vers Chargé-Torix?
Oui, ça c'est un autre problème. Alors, donc on leur raconte, on leur dit... C'est oui, écoute, arrête, on leur raconte, on leur dit, ben voilà, mais c'est le Seigneur qui dit, alors donc ensuite, on leur enseigne, on dit, ben voilà, oui, vous n'êtes pas obligé de rester là comme des cons jusqu'à la fin du monde, en fait, comme la sagesse touriste, c'est un temps qui est chaud. Lui, au moins, il est toujours ouvert, et il y a le Christ, regardez, on dit la messe, regardez, vous pouvez quand même regarder du côté de la lumière, non, vous pouvez vous ouvrir un petit peu, approchez-vous, et vous allez voir que tout est ouvert. Ben, vous n'êtes pas obligé d'être enfermé dans des lumières factices, du style machin, protectrice, qui vous rassemble ensemble, qui fait que vous êtes quand même en rester là. Vous avez donné votre vie pour ça. C'est partout à Tis, à mort, à vie. Ah oui, d'accord, t'étais mort comme ça. Oui, mais attends, à mort à vie, non, à mort à vie, t'es pas obligé. Et avec la messe, tu vois, tu peux dire à mort à vie dans quelque chose qui est au-dessus de tout à dessus, c'est qui te protégera encore plus, qui te fera une communion encore plus forte avec les gens avec qui tu es en ce moment. T'inquiète pas, tu les perds pas. Alors, donc on leur a expliqué, on a fait un joli sermon, il faut leur expliquer. Et puis alors du coup, il y en a au moins 40 000 qui ont été mis.
Je voudrais parler aux morts.
J'ai le droit d'évangéliser les vivants et les morts.
Ah, d'accord.
Je dois aimer mon prochain. Et faire miséricorde, avertir les pécheurs, enseigner les ignorants, conseiller ceux qui doutent, prier pour les vivants et pour les morts. Alors, il y a 14 heures de la charité fraternelle. Alors, et ça, c'est des êtres humains. Donc, je les arrache. Ah, bien sûr, tous, ils ne sont pas venus. On est d'accord. Mais j'ai par exemple le père Guinel qui racontait cette histoire. Le père Guinel, il disait, voilà, un jour, j'ai une... j'ai des histoires incroyables. C'était des petites jeunes filles et un petit jeune homme. Bon, ils s'étaient mariés et la petite jeune fille était d'origine musulmane. Donc, et puis le type, il était chrétien. Donc finalement, elle avait demandé le baptême. Et puis finalement, 10 ans après, il y a des enfants. Et puis on les a baptisés les enfants. Et à partir du moment où on a baptisé les enfants, il y a eu des histoires. Mais des histoires vraiment rocambolesques, mais ahurissantes. Donc, Père Gunnar, il dit, on a prié, il dit, comment ça peut se faire, cette cascade, je passe parce que je veux aller un peu plus vite. Alors, il a dit, les grands-parents, c'est-à-dire les grands-parents de la fille, pour eux, ils étaient morts déjà depuis 12 ans, ils s'étaient mariés 2 ans après leur mort. Ils étaient morts depuis 12 ans. Pour eux, dans leur esprit, c'était vraiment le diable si jamais un de leurs petits enfants était baptisé. Pour eux, ils étaient morts avec ça. Donc le père Gunnar a célébré la messe, il a demandé à leurs anges gardiens de venir et il les a ouverts en rayon de la lumière eucharistique. Et puis il leur a dit, écoutez, voilà, voyez votre fille là, elle est là. Vous savez, dans le Coran, c'est marqué que Jésus Ibn Issa, c'est quand même le grand prophète. Et c'est marqué quand même dans le Coran qu'il faut lire le livre, parce que l'éditeur du livre, c'est... Et il dit, regardez, là, dans le grand livre, et dans le Coran aussi, c'est marqué que Marie est là, elle est pleine de la grâce, et que du coup, il faut être heureux, etc. Donc, il commence à expliquer les trucs qui sont même dans le Coran et tout. Et à partir de ce moment-là, il a dit, mais si vous voyez, si. Il a commencé à expliquer, à faire du catéchisme, si vous voulez, mais adapté aux grands-parents qui étaient là.
Et qui étaient morts.
Ah ouais, il était mort depuis 20 ans. C'était 8 ans après le mariage, tout ça. Et bien, à partir de ce moment-là, ça a été fini. Il y a eu une paix royale Ça a été tranquille. Vous voyez, il faut donner le catéchisme. C'est un des ministères du monde nouveau, remarquez bien. C'est un des ministères du monde nouveau de faire rentrer dans l'église militante les âmes des enfants avortés, mais c'est aussi un des ministères du monde nouveau de donner, d'avertir les pécheurs, mais en les enseignant, mais avec amour, tranquillement, gentiment, de manière adaptée, pour qu'ils sortent du temps de la terre, pour qu'ils sortent de là, et qu'ils rentrent dans le jugement particulier. Vous voyez, ça c'est. Et c'est enfin un troisième ministère du monde nouveau qui est bien évident de faire oraison jusqu'au corps spirituel pour pouvoir emporter tous ceux qui sont au purgatoire. C'est évident que dans le monde nouveau, on va vider le purgatoire. Ça c'est dans la Bible, hein. Je veux dire, l'église de Philadelphie va vider le purgatoire. Il n'y aura plus personne au purgatoire. Il n'y aura plus un au purgatoire. De ce point de vue-là, on va rejoindre les protestants qui disent « il n'y a personne de mettre ça, hein, si on sera d'accord avec les protestants. » On va vider le purgatoire, ça c'est clair, il n'y a plus personne de mettre ça. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même un... Et puis, vis-à-vis de ceux qui sont sur la terre, vous comprenez bien que ça, il va soulager la douleur, donner la paix. Alors, dans le règne du Sacré-Cœur, et dans la mise en place du monde nouveau. Alors, quelles sont les autres questions? Non, comment savoir à quelle demeure nous en sommes? Alors, écoutez, vous consacrez à Marie, d'accord? Faites une consécration totale à Marie.
C'est quoi la question? Je ne connais pas.
Est-ce que je peux savoir si je suis dans la première demeure, la deuxième demeure, la troisième demeure, la quatrième demeure ou la cinquième demeure? Comment savoir, hein? Bon. Alors c'est très facile, c'est dommage, je devrais l'avoir ici, non? Non, c'est pas. Je vous passerai, c'est sur les bancs, il y a une feuille où il y a cette demeure. D'ailleurs, elle est très intéressante, je voulais vous la dire, je crois que vous avez là, je voulais vous la dire cet après-midi. Pas à cause des demeures, mais à cause de ce qu'il y a avant. Je vous explique déjà ce qu'il y a avant, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, puisqu'on est dans les sept demeures. D'où ça nous vient, cette demeure Sainte Thérèse d'Avila? Ça nous vient de ce fait que Sainte Thérèse d'Avila, arrivée à l'âge de 47 ans, c'était une carmélite moyenne, médiocre, enfin, Si, pas mal quand même, elle avait la pêche, mais la ferveur, tout ça. Enfin, bon, c'était pas la grande sainte. Donc, un peu mon style, c'est un petit peu. Alors, hein, bon, voilà, elle meurt. 47 ans, elle meurt. Elle meurt. Et voilà, elle meurt. Alors, elle dégage. Elle aime le Seigneur. D'accord ? Elle aime le Seigneur. Elle se retrouve devant Jésus le Jugement qui dit, bon, dans mes bras ma fille, je vais quand même t'indiquer quelque chose. C'est que tu as une mission. Donc tu n'es pas... Ta mort n'est pas consommée. Tu reviens.
C'est une NDE ?
Et non, ce n'était pas une NDE. Et donc elle est revenue. Et 3 jours, on avait mis le cercueil. C'était dans l'église, elle était dans le cercueil, 3 jours et demi après sa mort, on commence la cérémonie, ça frappe dans le cercueil, elle était vivante, elle se réveille, ça a duré 3 jours et demi. Hein. Et donc, elle ressuscite en pleine église, Thérèse d'Avila, et elle dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant alors voilà. Et finalement, au bout d'un certain temps, bien sûr, il faut réformer le Carmel, etc. Elle se dit, bon, peut-être qu'il faut quand même voir les choses un peu différemment. Elle explique à ses petites sœurs, titata, finalement. Alors, ses supérieurs vont dire, au bout d'un certain temps, ça n'a pas été tout de suite, hein, croyez-le bien, il a fallu 5-7 ans, il a fallu qu'elle soit transverbérée. Enfin, je te dis pas, un bordel pas possible. Alors ensuite, Et à un moment, donc, le supérieur de général des Carmes le dit, écoutez, hein, puisque c'est comme ça, puisque vous êtes mystico, machin, hystérique et compagnie, c'est le NDE, bon, ben, écoutez, on va voir de quel bois on se chauffe. Vous allez nous faire un bouquin, vous allez écrire comment, à votre avis, il faut faire pour être entièrement purifié et réformé, puisque vous voulez réformer. Un bouquin là-dessus. Ah, dis, mais moi, j'ai jamais écrit de bouquin, moi. Bon, alors, au nom de cette obéissance, elle prend un stylo, un papier, elle dit, un jour, rien, ou deux jours, alors, qu'est-ce que je peux écrire? Et le troisième jour, c'est la fête de la Très Sainte Trinité, de l'an 1700, c'est ça de marquer la terre. 1577, elle a 62 ans, vous voyez, c'était pas tout de suite après. Elle a une apparence. Le Seigneur lui montre sous ses yeux, lui montre le cœur de ce qu'elle doit écrire. Puisqu'on nous la sainte obéissance. Et elle voit. Sous ses yeux, le corps originel d'un homme au moment où Dieu est en train de créer. Notre première cellule. Elle le voit. C'est extraordinaire. Et c'est complètement génial. Il n'y a que le bon Dieu qui pouvait penser une chose pareille. Hein, parce que nous, moi, je n'y aurais pas pensé. Hein, pour faire cette demeure de l'union transformante, commencer le corps spirituel. Quoi. À l'origine, la première cellule. Celle qu'on veut planter, quoi, au départ, avec la loi d'allumination. Vous comprenez pourquoi je me passionne pour cette apparition de Sainte-Thérèse d'Avila. Elle se met en prière pour demander au Seigneur ce qu'elle doit faire. Et bientôt, elle est favorisée à la fête de la Très Sainte Trinité, la vision surnaturelle d'une âme en état de grâce. Cette âme, donc, lui est montrée comme un globe de cristal. En fait, c'est cette première advenue de l'âme quand elle est créée par Dieu. Eh bien, elle lui est montrée comme un globe de cristal avec plein de facettes, un diamant très pur, tout resplendissant de lumière. Diamant, donc, c'est le corps, vous voyez, et tout resplendissant de lumière, et resplendissant toutes les facettes de tout ce qui est dans le monde, finalement. Hein. Et tout resplendissant de lumière, déclaré d'un foyer divin du dedans, c'est Dieu qui jaillit, qui vit. Et qui resplendit. Dieu lui-même qui se trouve au centre et Thérèse remarque que le globe devient de plus en plus resplendissant au fur et à mesure qu'on s'approche du génome, du foyer, du centre. Oui, la vision lui montrera ce magnifique globe de cristal en forme de château ayant sept grands espaces, sept grandes demeures. Et dans la septième demeure, placée au centre, se trouvait brillant d'un éclat merveilleux le roi de gloire. De cette gloire, toutes les demeures jusqu'à l'enceinte se trouvaient illuminées et embellies, et plus elles étaient proches du centre, plus elles participaient à cette lumière. Et Thérèse était émerveillée par cette beauté qui réside dans nos âmes lorsqu'elles sont créées dans la grâce. Et oui. Et d'un seul coup, par propagation du péché originel, sous ses yeux. Alors, dans sa vision, la lumière disparut soudain, et sans que le roi de gloire ne quitte la demeure du centre, le cristal se couvrit d'obscurité, comme une gangue devient noire comme du charbon, se répandit alors une insupportable odeur. Les bêtes vénéneuses qui se trouvaient dehors dans l'enceinte reçurent alors la liberté de pénétrer petit à petit vers l'intérieur du château. Et la seule demeure qui soit préservée, c'est comme la lumière de mon verre luisant, vous voyez, c'est celle du centre. Et dans tout le travail du Christ avec la grâce, ce sera de purifier la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, jusqu'à retrouver le corps originel, le corps spirituel du Christ, pour pouvoir passer au livre de vie dans lequel j'ai été inscrit, lorsque j'ai écrit, d'où les sept demeures. Alors, à ce moment-là, elle a écrit les sept demeures, vous comprenez? Mais enfin, elle a eu au moins le fil rouge à partir de la révélation du corps spirituel, du corps originel. Alors, si vous voulez savoir dans quelle demeure vous êtes, c'est très facile. Vous êtes ou des commençants, ou des progressants, ou des progressants, oui, c'est ça, ou des illuminatifs, ou des unitifs, ou des fiançailles, ou des parfaits. Alors, dans les deux premières demeures, vous êtes des commençants. Il y a des personnes qui récitent bien la prière, qui connaissent la prière, qui les récitent, mais elles n'ont pas vraiment renoncé au péché. Il y a des complicités, vous savez. Si moi je veux bien, mais j'en garde un peu quand même, bon, des péchés, s'il vous plaît. Voilà. Mais elles n'ont pas vraiment renoncé au péché, à leurs habitudes. Elles parviennent, grâce à leur désir, à un état de lutte, où les tentations vont facilement les vaincre. Une grosse tentation va les vaincre. Une grosse tentation va vous vaincre. Vous voyez ? À côté, vous tombez fou amoureux d'une nana, c'est vraiment une déesse. Après tout, ça fait 10 ans que vous êtes chaste, et puis vous êtes fou amoureux, après tout, on va se marier dans 3 mois, et hop, vite l'hippopotame. C'est une tentation, alors les tentations vont facilement les vaincre, mais où elles comprennent de plus en plus que Dieu est leur vrai paix et leur sécurité, vous voyez, c'est génial ça. Bon, dans la troisième, on commence à progresser quand même, hein. Peut commencer la vie illuminative. Ces personnes-là ont leurs heures de recueillement, elles évitent même les péchés véniels, pratiquent la pénitence, et si bien que toutes les forces qui sont... Ah, c'est bien, c'est François qui nous apporte des yaourts. Alors, toutes les forces, comprenez que quand vous êtes dans les deux premières demeures, toutes vos forces, c'est pour essayer de sortir du péché, quoi, pour rentrer dans la prière. Toutes vos forces sont mobilisées pour sortir de vos fantasmes, de vos tentations, mais pour rentrer dans la prière, je veux dire, toutes vos forces, c'est pour... Dans la troisième demeure, c'est l'illumination. Toutes nos forces sont pour entretenir la lumière que Dieu nous donne. Pour entretenir, la prière, elle est là et on l'entretient. Et nos forces ne sont pas pour lutter contre le mal, le péché qui est en nous. Notre orgueil, nos curiosités, etc. Enfin, on n'est pas là en disant, bon, oui, là, là. Bon. Et quatrième demeure. Alors, quatrième demeure, c'est la vie contemplative infuse. On accède à l'horizon qui étude. Là, vous priez en silence. C'est quand vous priez dans votre demi-heure d'horizon, vous êtes silencieux. Votre silence est vivant. Vous ne parlez pas avec Dieu. Vous ne parlez pas. Dieu ne vous parle pas non plus, d'ailleurs. Mais c'est le silence vivant de Dieu qui vous envahit. C'est une invasion de Dieu, mais silencieuse et vivante. Et vous, votre silence vivant est... envahit tous les espaces intérieurs de Dieu pendant une demi-heure sans arrêt. Et du coup, ça se traduit comment? Ça se traduit par ce fait que, quand vous êtes là, c'est un phénomène très très facile à repérer. Très très facile à repérer, c'est que toutes les puissances, même physiques, se rassemblent à l'intérieur de vous. comme exactement dans le sommeil, vous êtes très très lourd, comme un peu engourdi, mais pourtant vous avez les yeux ouverts, vous entendez tout, vous comprenez tout, vous êtes parfaitement éveillé. Mais en même temps, tout est endormi en dehors de ce silence vivant qui rejoint le silence vivant de Dieu en vous. Vous entendez même les bruits extérieurs. Mais voilà, vous êtes là. Et à la limite, vous êtes lourd, aussi lourd que quand vous êtes endormi. Et d'ailleurs, pour en sortir, il faut vraiment que vous fassiez un petit effort pour vous débourgir. C'est ça, toutes les puissances de l'âme sont recueillies. Et du coup, c'est l'âme spirituelle. Quand vous voyez des gens qui tombent dans le repos du Saint-Esprit, toutes leurs puissances motrices sont immobilisées. C'est pour ça qu'ils tombent d'ailleurs. Et il n'y a plus que. Ils entendent tout, hein. Ils entendent tout. Et la bénédiction de Dieu peut prendre toute sa place. Mais seulement quand c'est le repos du Saint-Esprit et qu'ils tombent, ça ne vient pas de leur raison de quiétude. Ça vient d'un avertissement de Dieu qui dit : toi, tu ne fais pas oraison. C'est pour ça que quand vous allez à Medjugorje, etc., si vous tombez, c'est un appel de Dieu en disant : toi, fais gaffe, les temps sont urgents, dépêche-toi vite de faire oraison. Et si tu veux savoir comment faire oraison, regarde dans le repos de l'esprit l'état dans lequel on est. C'est là, c'est comme ça qu'on fait oraison. Voilà, c'est la quatrième demeure. C'est la quatrième demeure. La cinquième demeure.
Et de dire les
horizons de brise, c'est encore autre chose. C'est
directement la quatrième.
Pardon ?
On arrive directement à la quatrième.
Non, j'y viens. La cinquième demeure, ça c'est pour quand tu es silencieux et tu essaies de donner ton temps, une demi-heure à Dieu tous les jours, le plus silencieusement vivant possible. Hein. La cinquième demeure, c'est la vie initiative, permet à l'âme de garder toujours l'union à Dieu. Ça, tu es dans la cinquième demeure lorsque tu fais oraison, tu es dans l'adoration, tu te recueilles, et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est renversé. Dieu est passé. C'est facile à voir parce que tu es strictement incapable de dire si ça a duré 7 heures, 5 heures, 1 minute, 30 secondes. Alors là, tu sais pas. Mais il y a une chose dont tu es absolument sûr, tu ne peux pas douter jusqu'à ta mort. Hein. Dieu est passé.
C'est ce qui s'est passé avec les petits oranges. Peut-être resté 2 heures.
Mais non. Alors là, franchir cette étape est inoubliable en revenant à elle. Vous voyez, il est impossible à l'âme de douter que Dieu ne l'ait plongé lui-même en lui et elle ne peut pas l'oublier. Ouais. La sixième demeure commence les extases. Ah, bienheureux celui qui est capable de discerner si c'est un mystico-dingo ou si c'est des gens qui font des extases du sixième demeure. Je n'ai pas trop vite en disant ça, c'est mystico-dingo. Hein. Parce que c'est la même pathologie chez les mystico-dingo, chez les fous, et ceux qui sont dans la sixième demeure. C'est exactement la même pathologie. Il n'y a aucune différence du point de vue pathologique. Donc si vous êtes tellement fort, si vous êtes capable de voir que c'est pathologique, et que c'est pas la sixième demeure, ben écoutez, venez me voir chez moi, dites-moi comment vous faites pour savoir. Alors, comment c'est les étapes, les extases, les descriptions. C'est ici que les étapes, les descriptions de Sainte Thérèse d'Avila, le bouquin, il fait 200 et quelques pages, 230, je ne sais plus, mais il y a plus de 130 pages uniquement sur cette demeure, parce que c'est là qu'il y a le plus de difficultés, de problèmes.
Ce n'est pas du Père Eugène, c'est pas le livre « Je veux voir Dieu » du Père Eugène.
Non, Sainte Thérèse d'Avila, les sept demeures.
C'est celle qui est
écrite. Non, les demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Voilà.
Ah oui, mais c'est ça. Père Eugène, c'est ça.
Alors, si vous voulez, ce qui est pénible dans cette histoire, c'est que tu tombes dans l'exaltation en Dieu, et puis d'un seul coup, tu tombes dans la nuit totale, le doute absolu. Tu ne sais pas si la veille, 2 heures avant, c'était le Seigneur ou si c'était le démon. D'ailleurs, maintenant, tu es dans le démon, tu ne sais pas si c'est quoi. Tu es paumé, quoi, c'est la nuit de l'esprit. C'est vraiment possible. Mais alors, en même temps, c'est là où il y a les phénomènes les plus ahurissants. N'allez pas voir le médecin. Hein. L'imbécile qui fait oraison, qui se trouve à la sixième demeure, qui va voir le médecin, mais docteur, je comprends pas, tu te transformes en légumes. C'est pour ça qu'il y a des grilles dans les monastères. Mais il y a des phénomènes tellement bizarres que. Bon, vaut mieux qu'il y ait des grilles. Voilà. Bon, alors,
Mais faut pas mettre des anxiolytiques, vous comprenez? C'est ridicule. Ben, c'est là le père spirituel, il dit, ah bon, tata, oui, vous avez ça, attends, on va vous filer tellement. Voilà, c'est des purifications, vous voyez? Et la septième demeure, après tant de purification, l'âme arrive enfin à cette union calme et durable qu'on appelle l'union transformante, où avec Dieu elle jouit de l'intimité, mariage mystique. Et oui, vous avez la transverbération. Hein. Dans la transverbération, là, hein, vous êtes donc dans la sérénité, disparition des violences extatiques, l'indissolubilité, toutes les grosses autres grâces d'union que vous avez eues avant surnaturelles, sont seulement transitoires. Et si vous restez sur la terre, c'est uniquement par pure charité, parce que normalement, si vous alliez au ciel, vous iriez directement à la vision béatifique. Donc si vous restez sur la terre, c'est uniquement pour aider le prochain. C'est à titre victime. Donc vous pouvez garder ça, c'est intéressant. Hein, comme,
Juste une question, parce que quand tu rentres dans une demeure, tu ne peux pas tomber complètement attisé ou dans la quatrième.
Non, mais si vous êtes consacré à Marie, vous avez les touches de toutes les demeures. Voilà. Parce que la Vierge Marie, elle distribue les touches de transformation chacune des demeures. En fonction des dispositions. Si tu es en dehors de... Oui, c'est une structure. C'est vrai que Marie, quand tu es dans la source vivante de l'Immaculée Conception, j'excuse, toutes les demeures, tu peux avoir des touches des premières demeures pour lutter contre le péché mortel, d'autres, des moments extatiques, etc. D'autres quelquefois, même quelquefois, quelque chose de la transverbération, mais... Bon, voilà. Alors... tant pis, je crois que ça fait beaucoup de choses. Je vous signale, tant pis, ce sera pour une autre fois, parce qu'il est quand même 5h24. Hein. J'ai presque fait presque aussi bien que vous, là, hein, en non-stop. Je vous signale quand même ce que vous pouvez trouver sur les bancs. Vous pouvez trouver sur les bancs. Mise en place du corps spirituel ou conférence de l'autre, c'est la même chose. Et c'est là que vous trouvez les choses sur le purgatoire. Si vous voulez avoir le petit parcours, comment est-ce qu'on fait pour passer du corps originel dans la spiritualisation du corps jusqu'au mariage spirituel en communion avec le corps spirituel qui vient d'en haut, désolé la croix. Eh bien, je me suis proposé de faire ça. Ça, c'est un truc très sympathique que j'ai voulu faire en disant on va prendre le cantique spirituel de Saint Jean de la Croix, la montée du Carmel, mais on va l'appliquer à la mise en place du corps spirituel. Parce que la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, c'est la divinisation de l'âme des enfants de Dieu jusqu'au mariage mythique de l'âme. Donc on a fait un petit livre pour faire la montée du Carmel avec les mêmes paroles que Saint Jean de la Croix, qui s'applique à l'incarnation dans l'âme, donc l'âme, le passage du corps originel, jusqu'à la spiritualisation du corps, sa divinisation, sa purification, son illumination, sa transfiguration et sa sponsorisation et son mariage en harmonie avec le corps spirituel de la résurrection. Voilà, c'est cette demeure. Et donc, vous avez comme une espèce de message, j'allais dire, pratique. Sur la sensibilité physique du corps lorsqu'il se spiritualise jusqu'à la mise en place définitive du corps spirituel dans le mariage avec le Christ. Ça, ce sera la différence qu'il y a entre la vie spirituelle chrétienne avant le sixième saut de l'Apocalypse et après le sixième saut de l'Apocalypse. Après le sixième saut de l'Apocalypse, le corps rentre dans la bataille eschatologique. Puisque le corps, l'union entre l'esprit, l'âme et le corps est attaquée substantiellement par la loi de l'abomination, le démon et les chambres organétiques de l'homme, ainsi que d'ailleurs tous les instruments mécaniques comme les réseaux illuminatifs et compagnie. À raison de quoi le Seigneur donc, va donner une grâce correspondante. Il dit désormais, puisque c'est du corps qu'on va séparer, moi je vais donner une ouverture avec le corps spirituel qui lui est en dehors du temps. Une possibilité donc de rentrer en contact avec le corps spirituel qui est en dehors du temps pour spiritualiser le corps et mettre en place le corps spirituel sur la terre.
Vous voyez ? Et c'est pour ça que la mise en place du corps spirituel, c'est vraiment ça que le fait que le pape ait mis ça en place, c'est vraiment le signe eschatologique extraordinaire. D'accord ? Vous verrez ça si vous voulez un petit peu pour voir sur le plan de la prière, comment je vais dire en priant, comment je vais faire prier mon corps dans ma prière surnaturelle, contemplative et transformante, comment je vais faire prier mon corps avec moi. Pour que, face au corps spirituel, l'Antéchrist ne pourra rien faire. Il pourra faire contre nous dans notre âme, il pourra faire contre nous dans notre esprit, il pourra faire contre nous dans dans tout ce que vous voulez, mais contre le corps spirituel, Stein, Stein, ping, pong, pénètre pas. Voilà, donc vous pouvez le regarder.
Tout le monde,
vous avez le cortex spirituel du corps, il est là. Attends, mais il y a un camion.
Ah, on a goûté aujourd'hui.
Alors, tant pis, j'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, mais c'est pas grave. Vous avez, je vous donne quand même à chacun. Voilà. Vous le lirez vous-même tout seul. Tant pis pour vous, ou à moins qu'on le fasse au moins une fois ensemble. C'est lorsque vous voulez couper des liens, soit pour vous, soit pour votre enfant, soit pour quelqu'un que vous aimez bien, comment est-ce qu'on fait pour couper les liens ? Vous avez les principes ici, avec les sept précautions à prendre. Pour couper les liens, vous voyez, 9 fois dans une direction, 9 fois dans une autre. Quand vous avez un problème, il faut couper les liens 18 fois.
Ah oui, c'est très très bien.
Il faut couper les liens 18 fois. 6, 6, 6.
Ah d'accord.
Voilà, et en réalité, il faut les couper 9 fois et 9 fois. Voilà. Et même, ouais. Et même 36 fois. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple, et puis vous faites vous-même. Par exemple, voilà. Je suis. J'ai été en contact, comme tu disais l'autre jour, une union sexuelle. Hein. Mais il se trouve une simple union sexuelle dans le péché. Hein. C'était il y a 30 ans, hein. Mais c'est une union sexuelle, c'est dans le péché. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'elle est devenue à Minette, j'en sais rien. Ou alors je le sais, enfin bon, j'ai entendu dire qu'elle est rentrée dans la sorcellerie ou je sais pas quoi, ou peu importe. Enfin. Bon, alors, je vais quand même couper les liens donc entre moi et elle. Je prononçais mon nom et la relation que j'ai moi avec elle, parce que par la sexualité, je contracte automatiquement des liens métapsychiques, hein, automatiquement. Pas seulement spirituel mauvais, pas seulement pécamineux, mais aussi métapsychique, automatiquement. Donc tout ce qui lui arrive 30 ans après, je peux. Parce que dans le péché sexuel, il y a quelque chose de l'acidification responsable de son corps qui me pénètre jusqu'à la mort en moi. Hein. Et donc si elle fait une connerie 30 ans après, boum, c'est sur moi. Bon, alors, donc ça veut dire que je vais, il faut que je coupe des liens. Bon, je vais couper des liens entre moi et l'appartement siège, je vais couper les liens. Alors, donc, je vais faire la prière qui est ici, que je vous donne. Vous respecterez bien les sept. L'indication, cette précaution, disons qu'ils sont là. Ouais. Et puis, vous découperez les liens. Comme les fréquences métapsychiques des puissances déchues, il y a 9 catégories différentes d'anges déchus. Il y a des anges déchus, des archanges déchus, des principautés déchus, des vertus déchues, des puissances déchues, des dominations déchues, des pôles déchus, etc. Donc, supposez que ça, le démon qui était sur vous ou sur cette personne-là, et soit par exemple de la hiérarchie, c'était par exemple des dominations déchues. Bon, très bien. Mais lui, dans les dominations dessus, il est en communication, vaste communiquant avec les 8 autres hiérarchies dessus. Donc il faut que je fasse la coupure de lien entre moi et lui 9 fois. En invoquant précisément les 9 hiérarchies angéliques glorieuses.
les séraphins, les chérubins, les trônes. C'est pour ça qu'on le fait 9 fois. Même si vous y comprenez rien, vous le faites 9 fois. Le Seigneur sait que c'est parce qu'il y a 9 hiérarchies ensuite. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Vous dites la prière toute simple, ça dure à peine 3 secondes, donc c'est plus simple, tu meurs, hein, donc tu fais, donc ça te prend rien du tout. Tu dis entre moi et Iphigénie, voilà, je coupe le lien entre moi et Iphigénie, avec le sang de Jésus, la présence de Jésus, l'autorité de Jésus, le Père du Saint-Esprit, et Marie qui écrase la tête du serpent, je coupe le lien entre moi et Iphigénie, voilà, avec la présence de Jésus, Jésus et moi, son sang précieux, son autorité, la présence de Marie-Reine qui écrase la tête du serpent, et le Père du Saint-Esprit, je coupe le lien entre moi et Iphigénie, voilà, je recommence, et puis après je recommence, entre Iphigénie et moi. Et oui, parce que si Iphigénie me tient là, moi je la tiens aussi là. Alors je coupe entre moi et Iphigénie, mais j'ai encore Iphigénie qui me tient, alors je coupe entre elle et moi. Et parce que s'il y a une relation entre le Père et le Fils, c'est donc il y a une relation entre le Fils et le Père. Donc si j'ai coupé les liens entre la relation paternelle vis-à-vis du Fils, il faut que je coupe aussi les liens, c'est-à-dire les zones, les nœuds, quoi. Les liens, ça veut dire ce qui nous noue, ce qui nous lie au mal. Il ne faut pas couper les relations fraternelles. Il ne faut pas couper les relations en ce sens. Mais on coupe les liens, c'est-à-dire les esclavages. Donc entre moi et Iphigénie, d'accord. Alors après, elle dit oui, mais c'était quoi le péché? Dans quel péché on s'est lié comme ça? Ah, c'est à vous de le déterminer. C'était un esprit de manipulation psychique, par exemple. C'était un esprit de manipulation psychique. C'était un esprit asmodéen. C'était un esprit vraiment de fureur sexuelle. C'était un esprit de... Voilà, vous mettez un nom sur le démon. Enfin, même si vous vous trompez de nom, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous essayez de vous rapprocher du mieux, vous dites l'esprit d'angoisse, quoi, parce qu'il était tellement angoissé que... Bon, je vais vous le conseiller, c'est ça. Bon, un esprit déchu, je vais donner... Alors, du coup, une fois que j'ai coupé le lien entre moi et Iphigénie, puis entre Iphigénie et moi, je vais couper le lien entre le démon qui s'est associé à notre relation, le démon, donc entre moi et cet esprit de manipulation psychique, et enfin 9 fois entre cet esprit de manipulation psychique et moi. Vous m'avez suivi? Oui. Donc si j'ai voulu couper les liens avec Iphigénie, j'ai fait 36 fois la coupure de liens. Voilà. Donc,
il ne reste plus qu'est-ce qu'il y a de bon.
Il ne reste plus qu'est-ce qu'il y a de bon, d'accord. Maintenant, il y a des fois où c'est très difficile. Si vous voulez couper les liens pour quelqu'un d'autre que vous,
oui, notre enfant.
Par exemple, vous voulez couper les liens entre votre mari et sa mère. Il ne faut pas qu'il coupe ses relations avec sa mère, mais il faut qu'il coupe les liens entre ce qu'il y a d'esclavagisme, ou de fusionnel, ou terrible, ou mauvais, ou dégradant dans sa relation avec sa mère, qui n'est plus que des relations merveilleuses, saines, avec sa mère, d'accord. Il n'y a plus que ça, voilà. Donc, mais le problème, c'est surtout, ordinairement, lorsque vous priez pour délier les liens de quelqu'un d'autre que vous aimez bien, vis-à-vis de quelqu'un d'un tiers. Par exemple, elle a été voir un marabout, ici et là, pendant 15 ans, elle a été protégée par des formules que je ne connais pas très bien, mais la personne lui a assuré qu'elle serait protégée grâce à ses maraboutages. Enfin, bien, comment est-ce qu'on va faire? Bon, vous voyez, hein, bon. Alors, il va falloir que vous priez pour quelqu'un qui, elle, a été liée avec... Il faut d'abord, un, qu'elle soit d'accord. Si ça sert, mais c'est pas actif. Il faut au moins qu'elle soit au courant. Tu sais, je vais t'aider, et si tu veux, je te ferai les liens. Tu sais pas me faire, mais si tu veux, oui, d'accord, je veux bien que tu m'aides en priant pour moi à ma place pour couper les liens. Ah, d'accord. Alors, premièrement, donc, de toute façon, vous verrez sur les précautions. Mais il y a aussi un autre problème. C'est que dès que c'est des liens à couper vis-à-vis de quelqu'un d'autre, souvent vous allez trouver dans une situation un petit peu pénible. C'est que les démons qui sont logés dans ces liens sont des démons qui ont la permission, si je puis dire, d'être sourds, d'être aveugles, d'être inhibés, d'être paralysés, d'être sans jambes, sans bras, vous voyez, enfin bon, d'être... Alors donc, il faut prendre ces précautions en...
Bon, il y a une précaution préalable peut-être à prendre, c'est pour ça que je vous ai préparé cette petite page supplémentaire qui est celle-ci, là, vous l'avez. Protocole pour lier, c'est un protocole. Au moins une fois, vous dites le protocole, au moins une fois, en disant voilà, je t'ordonne, j'ordonne au nom de Jésus, c'est Jésus qui ordonne, c'est pas vous, hein. C'est Jésus hein, qui ordonne, c'est pas vous. Hein. Donc, vous mélangez vraiment Jésus comme l'eau se mélange au vin, et Jésus et moi, nous ordonnons à tous les esprits qui sont sur Iphigénie et dans sa relation avec ce marabout, et à tous les esprits qui sont là, je leur ordonne, dès que je prononcerai le nom de Jésus, dès que j'invoquerai le nom de Jésus, le sang de Jésus, c'est de Jésus-Christ crucifié, né de la Vierge Marie à Bethléem, que je parle. Je ne parle pas de Jésus, le Christ cosmique, etc. Je parle de Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie, ressuscité d'entre les morts, je précise. Voilà. Et j'ordonne à tous les esprits, dès que je prononcerai ce nom de Jésus, qu'ils ne soient plus sourds pour entendre ce nom. Quand je le prononcerai. Et à chaque fois, je le prononcerai dans cette prière. Deuxièmement, je lui demande de ne plus être aveugle par rapport à la lumière qu'il en reçoit dès que je prononce ce nom, etc. Donc, vous lui ordonnez, vous donnez un ordre par l'autorité de Dieu au démon de ne plus... Parce que quand vous faites des exorcismes, vous pouvez faire des exorcismes, hein, avec plein de sacramentales, béni, le sang de la Vierge, tout ce que vous voulez, des rosaires, et puis, le mec, il est toujours là et il n'entend pas. Le démon n'entend pas, il s'en va pas. Donc d'abord, on lui ordonne un certain nombre de choses. Il est donc obligé de ne plus être sourd, de ne plus être aveugle, de plus être paralysé, de ne plus être inhibé, etc. C'est extraordinaire, ça. C'est
moi qui ai quatre pages.
Là. Donc vous le lisez tranquillement. Vous le lisez tranquillement, c'est pas vous qui le dites, c'est Jésus qui le dit à travers vous. Et après, vous coupez les liens, d'accord? C'est si jamais vous voyez qu'il y a une grosse difficulté, que ça se coupe pas tout de suite. Mais normalement, c'est comme ça, oui, normalement avec ça, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous ne devriez pas avoir de problème. Alors maintenant, hein? Alors, oui, alors maintenant, si vous voulez... soulager la douleur maintenant, parce qu'il faut quand même à un moment donné qu'on avance un tout petit peu. Si vous voulez soulager la douleur, là, voilà, j'ai fini de répondre à la liste de questions qui n'avaient quitté hors sujet. Donc si vous voulez soulager.
Merci à nous.
Si vous voulez soulager la douleur, vous pouvez soulager la douleur. On ne vous interdit pas de soulager la douleur. C'est très bien de soulager la douleur. Mais comme je vous l'ai expliqué, si vous soulagez la douleur, l'âme était habituée à entretenir cette douleur et elle s'en nourrissait. Donc si vous l'enlevez, cette douleur, l'âme va être donc en manque de mal. Parce que la douleur est un mal. Donc il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que si vous ne dites pas « moi, je avertis le pécheur », moi, si... je soulage la douleur, mais le mon malade, je ne l'aime pas. J'ai aucune bienveillance vis-à-vis de lui. Je n'ai rien à cirer de lui. J'ai aucune bienveillance. Son bien éternel, son corps spirituel, j'en ai rien à foutre. Je soulage la douleur comme ça. Je vais dire, vous voyez, je vous ai guéri. Hein. C'est moi qui vous ai guéri. Hein. J'ai fait, je vous ai bébé, moi je vous ai soulagé. Hein. C'est l'ego, vous voyez, donc à ce moment-là, non seulement vous vous gonflez d'orgueil, mais en plus vous ne le soulagez pas parce que le premier mal qui va se présenter à lui, eh bien, il remplace. Si en plus vous manipulez, si pour soulager la douleur, vous manipulez les champs vibratoires, etc., le premier mal qui se présente à lui, c'est évidemment un mal suprême, puisque c'est le mal qui circule sur la fréquence... le toboggan des fréquences métapsychiques dans lesquelles pénètrent toutes les puissances intermédiaires dès qu'il faut que lui là, puisqu'il a un mal en moins, eh ben, qu'il puisse comprendre par un moyen ou par un autre qu'il faut qu'il participe amoureusement
qui mettent de l'amour par rapport à ce mal qui a disparu. Et il faut que ce mal qui a disparu, il faut qu'il puisse l'aimer, même une fois qu'il a disparu. Donc j'aime d'avoir souffert ça, parce que comme ça, je l'offre après en avoir. Je l'offre par amour, et même quelque part, je vais comprendre que je vais comprendre qu'il faudra que je prenne sur moi, quoi. Il faudra que je prenne sur moi maintenant. Il faudra que je me fasse mal à moi-même, à mon ressenti. Vous voyez, je vais faire un sacrifice. Bon, par exemple, bon, je sais pas, je voudrais... je sais pas, il y aurait mille trucs, quoi, mais mille trucs à expliquer, mais il est bien évident que si on est chrétien, c'est très 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 facile, hein, parce qu'on dit d'accord, c'est pour ça qu'on dit Marie de la Croix Glorieuse, dit d'accord, je te soulage la douleur, mon camarade, mais en même temps, voilà, ce serait bien que tu pries et que tu fasses, que tu tournes ton âme du côté du mal profond que Jésus souffre pour la rédemption du monde et pour glorifier le Père. Voilà, tu vas méditer la passion. Si grâce à ce mal, la personne sera immédiatement portée à méditer la passion du Christ sans même presque vous ayez à le suggérer. Mais si vous savez la douleur, tout de suite, vous la branchez sur le film de Mel Gibson. Pour dire, on va regarder la passion, on va considérer Jésus souffrant, pour voir l'amour qu'il y a dans la souffrance chez lui. Alors à ce moment-là, vous avez remplacé un mal par un mal plus grand. Mais en plus, vous avez transformé un mal qui est méprisable en un mal qui est magnifique et qui est fécond. Vous avez transformé l'efficacité en fécondité. Et du coup, en plus, vous rapprochez du coup la personne guérie vers la spiritualisation de son corps, puisque plus le corps se nourrit de la souffrance du Christ, plus il se sanctifie. Et donc vous avez donné une santé non seulement physique à son corps, vous avez non seulement éloigné d'une corruption métapsychique, mais en plus vous avez introduit dans une sanctification, dans une spiritualisation du corps qui le rapproche de son identité originelle, et enfin vous lui avez donné une fécondité éternelle. Voilà. C'est pour ça que le soulagement de la douleur tout seul, vous me direz, on ne peut pas faire ça avec tout le monde. Parce que, attends, le mec, il n'est pas. Alors, on fait comment? Ah ben oui, alors on fait. Alors, ce sera le sujet de la prochaine fois.
Alors, finalement, on peut s'en aller comme on veut, puisque après, il suffit de prier, de faire tout ça, comme ça, quand même, protéger. Avec ce que tu dis.
Bah, non, faut que la personne participe.
Tu l'as pas dit, mais.
Non, c'est pas dit ça.
Finalement, il est protégé de ça.
Je voudrais expliquer, non, si tu fais ça, non seulement tu accentues la détresse épouvantable de ton ressenti, pour le coup, hein, ça là, on peut parler de ressenti, donc le ressenti, et en même temps c'est pas l'enfer, hein, tu vas pas en enfer, je crois pas, hein, tu vas pas en enfer, mais tu accentues vraiment la tristesse, hein,
la ligne est touchée. Alors
bien sûr que, disons, alors le type qui il est encore dans le temps, donc c'est un poids énorme, pour la famille.
Patrick,
alors il y a bien sûr, oui, mais ce que dit le curé d'Ars, Martre, Robin, etc. Bon, ils disent bien sûr des choses. C'est que évidemment la personne, bon, ça c'est la loi générale, c'est ça, c'est une loi de la nature. C'est qu'il est strictement impossible de retirer la pulsion de mort à quelqu'un qui s'est suicidé après sa mort. Donc il vaut mieux se guérir de son esprit de mort avant. Si j'ai un esprit de mort sur moi qui me pousse à aller à la mort, à me tuer, etc., à me trouver à dire que c'est la seule solution, et puis de toute façon j'en ai rien à foutre, et puis on verra bien. Ça c'est un esprit de mort, ça vient pas de nous. Ça vient, c'est un démon qui est là. Donc ça, c'est un démon. Donc quelque part, ce démon, il faut couper la relation entre mon entendement et la parole de cet esprit de mort qui me fait croire que ça vient de moi.
J'ai des bonnes raisons, parce que ça vient de moi, parce que je suis malheureux, parce que de toute façon, c'est ça qui va solutionner tous les problèmes.
Je voudrais demander, je suis dans ce point de vue-là, Dieu quand même voit la personne qui part, et les circonstances, et son âme et tout. Moi je pense à quelqu'un qui est parti il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui était dépressif, et elle a vraiment fait ça sous un coup de tête, parce que en fait son mari lui avait dit, elle n'était pas bien du tout, elle était dépressive, elle a déjà été dans une maison pour essayer de se remonter. Et en fait, elle ne voulait pas prendre ses remèdes, donc en fait, en tant que médecin, vous pouvez dire que si on n'est pas régulier et qu'on descend ses remèdes immédiatement, tout ça, c'est très mauvais, on rechute et puis c'est pire. Et alors elle a finalement rechuté, mais en quelques jours, et elle a entendu que son mari téléphonait à une clinique, c'était le week-end du 14 juillet, pas donc du 15 août plutôt, enfin c'est un grand week-end, donc elle a pu trouver, il n'y avait personne, donc voilà, donc elle est restée à la maison, et un certain mardi, il s'était donné beaucoup de peine pour avoir une chambre, pour la remettre, le téléphone est arrivé chez elle, alors que lui il était parti, puisqu'il est maire, il était parti à la mairie pour juste voir quelques papiers, etc. Et la clinique a téléphoné en disant, voilà, vous avez une chambre. Et en fait, elle l'a pas supportée, et l'idée de retourner là-bas, elle s'est suicidée. Mais c'est un espèce de coup sous des effets aussi de drogue, parce qu'en fait, c'est pas complètement. C'est pas calculé. Donc, est-ce que Dieu n'est pas.
Non, mais écoutez, il y a Kaïka. Moi, on prend une loi de la nature. Si moi, je décide de me supprimer, d'accord, que c'est lucide, c'est clair, je le fais, eh bien, je ne peux pas renouveler ni changer cet acte après. Pourquoi ? Parce que je suis en dehors du corps. Bon, quelles que soient les raisons.
Ouais.
Non, mais là, oui, mais vous comprenez, ça se comprend, voilà, c'est peut-être aussi parce que... Non.
Ah, d'accord.
Bon. Non, et non, ok ? Non. Non, après la mort, on ne change pas.
Ah mais non, je sais bien.
Il n'y a aucune justification au suicide. Vous ne pouvez pas faire croire à quelqu'un que c'est rien, que c'est parfait, qu'il avait... Non, il y a une loi, mais non. Si vous crevez l'œil à quelqu'un, il ne peut plus voir, d'accord ? Vous n'allez pas dire, oh, vous comprenez, peut-être si on le creve l'œil, il verra quand même. Non ! Si vous crevez les yeux, il devient aveugle, ok ? Vous pouvez faire de la musique, faire de la guitare, jouer, dire, mais oui, peut-être que le Seigneur est miséricordieux. Ça n'a strictement rien à voir. Si vous crevez les yeux à un aveugle, il devient aveugle.
Non, mais
il y a des lois quand même entre le lien entre l'âme, l'esprit et le corps. On ne peut quand même pas raconter des blagues. C'est pour ça que je vous réponds. Alors, toutes les circonstances atténuantes, c'est pour psychologiser le système, pour dire comment ils sont ressentis, ça s'explique quand même, et si. Et c'est... Non, c'est non. Voilà, donc il y a. C'est un esprit. Il ne faut pas accepter. Il faut pas accepter l'esprit de mort. L'esprit de mort, on ne l'accepte pas. On prend conscience. On sait pourquoi il ne faut pas l'accepter. Parce que l'esprit de mort ne peut pas venir de nous. C'est impossible, ça ne peut pas venir de nous. Donc il faut quand même avoir un minimum de respect, de la vérité. Quoi. Bon, la vérité, c'est que j'ai dit oui, moi, à la vie, sinon je ne serais pas vivant. Hein. J'ai dit oui à la vie quand j'étais embryon, j'ai dit oui à la vie des milliards de fois. Et il y en a un qui veut me. Il y en a un qui. Ah, c'est vrai, si je flirte avec des bêtises, etc., bon, petit à petit, l'autre y rentre et il me fait croire que. Et j'ai un esprit de mort sur moi. Bon, et l'esprit de mort, ça demande une délivrance. Il ne faut pas accepter d'avoir un esprit de mort sur soi.
Alors, j'ai une deuxième question à poser.
Oh, ben ça, des questions, il y en a sûrement des milliers sur ce sujet-là.
La deuxième question, c'est que j'avais lu que c'est effectivement la personne qui part, comme vous dites, avant le temps, c'est-à-dire qui se suicide, que elle restait
dans un temps d'attente jusqu'à ce que ce soit l'heure de son départ vrai, quoi. Et
oui,
après, il y avait une résurgence. Enfin, le Seigneur faisait ce problème.
Voilà, écoutez, d'accord. Je veux l'expliquer rapidement, d'accord. Voilà. Parce que souvent, il faut.
C'est une question que j'ai toujours posée.
Non, mais d'accord. Bon, le principe que je vous disais, non, c'est clair que c'est non, vous le gardez, d'accord. Ça reste clair. Seulement la mort. Je voulais expliquer, quand au niveau clinique, on va dire, c'est Jean-Claude qui le disait d'ailleurs, que le cerveau, il y a des dilatations du cerveau qui diminuent au bout de...
Oui, 2-3 heures.
De 2 ou 3 heures. Hein? Voilà. Et qu'au niveau clinique, quand vraiment c'est le plat du cerveau, on dit ça y est, il est cliniquement... Alors c'est grave, il est mort. Il faut quelquefois 2 ou 3 heures après une mort.
C'est les ondes crâniennes durent encore 2 ou 3 heures.
Avec... Les ondes crâniennes durent encore 3 heures. Donc le mec, s'il est en NDE, on peut encore le réactiver, il peut revenir à la vie. 2 ou 3 heures, allez, mettons 3 heures. 3 heures après la mort apparente. Hein? Mais attention, 3 heures après la mort apparente. Mais après, même après l'encéphalogramme plat. Les cellules, elles, qui sont le lieu de l'animation, c'est pas le cerveau le lieu de l'animation, c'est le génome. Le génome, lui, il est encore vivant avec la présence de l'âme dedans pendant au moins 2 à 3 jours.
2 à 3 jours.
Ah oui, c'est
hérissé. Oui, alors, donc, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que notre vie humaine n'est pas au niveau du cerveau, n'est pas au niveau des organes, n'est pas au niveau. Alors, or, il se trouve que quand j'ai un désespoir qui ne vient pas de moi, mais qui vient, j'allais dire, de trucs psychologiques,
des ennuis de fric, des ennuis.
Non, c'est encore autre chose. Non, mais je parle que c'est ça vient d'une psychose, par exemple. Donc ça n'a plus strictement plus rien à voir avec ma volonté, mon cœur, etc. Tout ce que vous voulez. Ou alors, ou sous hypnose, on me flanque sous hypnose, on me dit juste allez, tu te suicides, parce que c'est ça. Les mecs qui suicident, c'est toujours une hypnose luciférienne, en fait, c'est Lucifer, mais sous hypnose. Bon, alors ça, l'hypnose, elle ne fonctionne que si tu es encore en fonction du déplacement des ondes alpha dans les vrax. L'état cathéotide somnambulique en question, il s'arrête là. Donc, tu as encore, ton âme, elle est encore présente dans les cellules vivantes de ton corps, dans le génome, et il faut, c'est pour ça d'ailleurs que dans l'église catholique, on fait les enterrements 2-3 jours après. La mort. Et moi, je vous assure que, en tant que prêtre, puisque je vais donner les derniers sacrements, quand quelqu'un vient de mourir, je vais le voir. Ça fait 24 heures qu'il est mort. Hein. Il est mort ici, 3 heures. Bon, 24 heures, il est mort. Je vais le voir. Et bon, à force, on finit par s'habituer. Mais on voit très bien si son âme est encore. Il est encore. Habituellement, il est encore. Hein. Habituellement, il est encore. Hein. 24 heures après, il y a encore, hein, ça, vous pouvez être sûr, hein, il est encore. Alors, je lui donne les derniers sacrements, je lui parle et tout. Je lui parle, on prie pour lui, il y a une communion d'âme à âme, d'esprit à esprit, dans la grâce de Dieu, communion des personnes. Et il y a un acquiescement, c'est marrant. Hein. Mais parce que le cerveau ne marche plus, hein, il n'y a aucun organe qui marche. Hein. Mais son âme est encore là. Son âme y est encore, son âme est dedans, là. Mais très libre, alors pour le coup, très libre, son âme, puisque là, le génome est le lieu de la liberté à l'état pur, spirituel. Il n'y a plus aucune inférence du cerveau. Il n'y a plus aucune inférence du concupiscible, de l'irascible, c'est fini. Voilà. Donc c'est pour ça que là, tu donnes les derniers sacrements, là. C'est l'idéal, presque. Bon, mais moi, quand je dis le principe du gars qui se suicide, c'est irrémédiable, c'est évidemment, si c'est quelque chose, j'allais dire, qui est sans solution jusqu'au moment où son âme se sépare de son corps. Une fois que vraiment la séparation, c'est celle de la séparation, non pas apparente, mais de la séparation réelle, là, c'est fini. Là, si dans cet intervalle, il n'y a pas eu quelqu'un qui a prié pour lui, vous voyez, une grâce actuelle, pour le soulever en disant « mais je veux vivre du Christ, etc. », s'il n'y a personne, vous voyez, qui il est foutu.
il est foutu. Vous voyez, il est foutu. C'est pour ça que, bon, alors, il faut comprendre pourquoi. C'est parce qu'il ne peut plus poser aucun acte différent que celui, qu'il y a dans son opinion, dans son dernier, dans sa dernière pensée. Oui. Tu ne changes pas d'opinion parce que tu es mort. T'as toujours tu ne changes pas de goût. Moi, j'ai du goût, j'ai un goût formidable pour j'en sais rien, moi, pour...
Pour les chevaux. J'aime les chevaux.
Moi, je ne rêve qu'une chose, c'est d'égorger les enfants. Voilà. Égorger les enfants, je trouve ça génial. Oh, qu'est-ce que je trouve ça marrant. Alors, j'égorge les enfants, puis j'ai une fille. Et puis, je meurs. Mais, après, quand je meurs, j'ai toujours envie d'égorger les enfants. Je ne peux pas me passer, c'est impossible de pas me passer de films porno. Eh bien, mais après, quand je meurs, il me faut des films porno.
C'est bourré,
il a même pas le faire.
Je crois que
si on avait
une
vie, c'est bourré,
c'est
bourré. Et c'est pour ça que souvent, ces gars-là,
c'est
des adhérentes. Une amérante, c'est quelqu'un qui refuse le salut du Christ. Et donc, si elle est trouvée amérante au jugement dernier, c'est la réprobation éternelle.
Et les amérantes.
Mais en tout cas, une chose est sûre. Pardon.
Les gens qui se suicident, coupent leur.
Non, mais il y a trois solutions. La première solution, c'est l'enfer éternel. C'est le tartare immédiat. Directement. Vous comprenez ? Soit la personne a eu des actes de bonté héroïques dans sa vie, tout ça. Bon. Elle a prié beaucoup pour des personnes qui étaient décédées de son vivant, etc. Bon, vous voyez bien. Alors à ce moment-là, bon, elle sera probablement une amérante jusqu'à ce que quelqu'un sente et prie pour elle. Vous voyez ? Oui.
Il y a des âmes qui sont déjà en paradis grâce à son intercession.
Par exemple. Vous voyez ? Par exemple. Mais il y a aussi la troisième solution, c'est que entre le moment où je me suis tué et le moment où je meurs, j'ai quand même des remontées spirituelles très fortes, puisque j'ai quand même dit: je vous salue Marie, pleine de grâce, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort. Je l'ai dit des milliers de fois, je l'ai dit des centaines de milliers de fois dans ma vie. Attends, la Sainte Vierge, tu crois qu'au moment, même si, au moment où je... Au moment où je meurs, je lui ai demandé, attends, elle va être là.
Ouais. Entre le pont et l'eau, ça chasse.
Donc, je m'excuse, mais elle va être là. Donc, à ce moment-là, je fais tout pour me raccrocher à Marie pour éviter que je meure. Donc, mon dernier mouvement, ce n'est pas « je veux mourir », mais mon dernier mouvement, c'est « je ne veux pas mourir ». Et à cause de ça, du coup, c'est ne plus un vrai suicidé, n'est-ce pas ?
Et revient, ça y est, loupé. C'est loupé.
Il est quand même mort, mais au moins, il n'est pas dans l'état de suicide. Une fois qu'il s'est séparé de son corps. Mais celui qui est dans l'état de suicide, ça je vous assure, qu'il se trouve pas malin, parce que il se trouve mal. Il pensait être vraiment débarrassé de son problème, et il l'a accentué 10 fois.
100 fois.
Oui, il s'entupe, mais il faut être gentil. Bon, là, il l'a accentué. Il a accentué son mal, sa détresse est accentuée, parce que non seulement il cherche à se supprimer, mais en plus il n'y arrive pas. Alors, donc c'est un petit peu comme des hannetons qui essayent de se dévorer eux-mêmes de l'intérieur, sans y arriver, et continuellement, et de plus en plus. C'est pas drôle, hein. Ceux qui sont comme ça, il paraît, de l'autre côté, c'est vraiment pas drôle. Et presque ils étaient infiniment plus heureux dans les secondes qui précédaient le suicide. Hein. Ah oui, à côté, en comparaison. Mais il faut comprendre pourquoi, je veux dire, c'est... Non, ça ne faut pas...
Il n'avait pas conscience...
Non, il ne faut pas... Le péché, non, il ne faut pas... Il ne faut pas adhérer à la mort. De choisir la mort, c'est vraiment le péché suprême.
Pourtant, il y a des gens, moi j'entends souvent des gens qui disent: j'ai envie de demander de partir, j'en ai assez d'être là.
Oui, mais vous savez...
Peut-être qu'il demande ta permission.
Oui, d'accord, je comprends. Mais... Donc du côté de la douleur, c'est pour ça, oui. Hein? Oui, c'est pour ça que du côté... Bon, quand on veut soulager la douleur, je veux dire, la première douleur, les premières douleurs, à mon avis, elles sont spirituelles. Donc la première douleur de l'âme, c'est précisément cette odeur de mort. C'est la douleur la plus terrible.
Donc le premier déblocage à faire au niveau du coccyx, c'est d'enlever la queue, la casserole qui est accrochée à la queue du coccyx, du singe, et tu traînes un esprit de mort derrière toi. Attends, ça, il faut redresser le coccyx pour que la...
Quand on parle des lignées, parce que moi j'ai eu un oncle qui a fait ça, et sa fille, ça fait 3 ans, c'est elle maintenant qui fait que parler de suicide, alors... On a l'impression que c'est...
Mais oui, parce que quand tu es dans un esprit de mort dans la famille, là, celui de la famille, il n'est pas ordinaire, ordinairement, il n'est pas encore en enfer, et donc il s'accroche à sa famille. C'est pour ça que l'esprit de mort s'accroche aux enfants, et puis aux arrière-petits-enfants. Jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien couper l'esprit de mort qu'il y a. Parce que en fait, c'est une infestation. Il y a une complicité avec un démon de l'enfer. Hein. C'est Belzéboul, le prince de la mort. Donc il faut couper avec, faut faire la coupure de lien que je vous ai expliqué comment il fallait faire avec Belzéboul et avec les esprits de mort. S'il y a une coupure de lien à faire, si moi je ne sais pas faire la coupure de lien avec l'esprit de mort, je demande à quelqu'un de le faire avec moi, et puis voilà. Mais il faut faire les fameux... c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué de faire une coupure de lien.
Et justement pour les gouvernements de la confession
de prière de libération, de délivrance par rapport à un esprit mort qui nous habite.
Oui. Une prière de coupure de lien, de délivrance.
Sans empêcher avec un esprit de mort qui nous habite et qui vient de temps en temps vous chatouiller l'esprit.
Ouais.
Bah tiens. Et pour couper les. Tous ceux qui font ça, ils vont beaucoup mieux après.
Ah ben bien sûr, de toute façon, quand tu coupes les liens entre quelqu'un qui a des idées de mort, de suicide, quand tu fais la coupure de lien. Ça change.
Même si ça revient, parce qu'ils disent, nous expliquent bien les traits que ça revient, mais c'est une tentation, il faut la chasser.
Oui, mais c'est pas pareil d'avoir une tentation qui rôde à côté de toi et quelque chose qui est à l'intérieur de toi, lié à ta pensée. Qui se confond avec ta pensée, quoi. Qui vient spontanément à ta bouche. Voilà, oui, mais enfin, c'est macabre, hein, votre histoire, là.
Et non, mais c'est bien éclairé. Je voulais vous demander pour couper les liens, mais couper les liens avec des gens qu'on aime. Moi, j'ai mon meilleur ami, d'ailleurs, qui me fuit parce que...
Pour le moment de la mort, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit ça, ce que j'étais en train d'expliquer, à savoir qu'au moment où il a perdu conscience... Et le moment où il a porté le coup, où il s'est jeté dans le fleuve, et le moment où il s'est noyé, il y a eu, il a dit, il y a eu trois minutes.
Trois secondes.
Non, 3 minutes, parce que bon, ou peu importe, c'est eu. Et il a dit, si vous savez tout ce qui s'est passé pendant ces, supposons 3 secondes, si vous savez tout ce qui s'est passé pendant ces 3 secondes, ça va très bien pour lui maintenant. Ça veut dire que pendant ces 3 secondes. Et il a reçu des tas de
la salle du curé d'Ars, bien
sûr. De grâce.
C'est le curé d'Ars qui disait ça.
Oui.
Enfin, c'est pas n'importe quel curé d'Ars.
Marthe Robin, par exemple, je sais pas, elle est...
Elle s'est offerte, Marthe, pour tous les
gens. Marthe Robin, donc, elle était transportée auprès de quelqu'un qui était en détresse, et donc le gars, il se suicide, elle le prend dans ses bras, le type est en train de se suicider, puis il se retrouve dans les bras de Marthe Robin. Alors évidemment, ça change un petit peu les derniers instants de sa vie, quoi.
Mais tout le monde n'a pas cette chance. Hein.
Là, par exemple, je connais une petite qui est une petite polonaise. Elle m'a dit voilà, un prêtre que j'aime bien, il est mort. Et la seconde, mais tu sais pas à quelle distance, un peu comme Marthe Robin, quoi. À l'instant où, vraiment à la même seconde qu'il était en train de mourir, et ben voilà, elle est morte de la même mort. C'est une stigmatisée aussi. Hein. Elle était devenue glacée, claquer des dents, un truc horrible. Hein. Et ça a duré 1 heure. Et bon, voilà, et puis le comme ça, elle a pris au fond dans son dans sa stigmatisation tout ça, la mort de cet homme, jusqu'à ce qu'il en ressorte quoi. Donc c'est par l'amour que on que ces gars-là sont sauvés de leur d'une destination horrible. C'est par l'amour de quelqu'un. Marthe, par exemple, racontait que Marthe, quand Khrouchtchev est mort. Marthe a été transportée au lit de chevet de Khrouchtchev. Le Khrouchtchev, c'était un beau salaud, hein. Et voilà, et c'est elle qui et il l'a vu, hein. Ils ont parlé. Mais c'était la dernière minute avant sa mort. Hein. Et effectivement, Khrouchtchev est sauvé grâce à Marthe. Mais enfin bon, attends, je veux dire, c'est bien. Mais enfin bon, on est très content que la. Qu'il y a des gens qui s'offrent en victime, c'est vrai, pour sauver in extremis des mais enfin, faut quand même pas, quand tu sais ce que ça coûte à tes âmes victimes, non, quand tu sais ce que ça coûte à l'âme victime de venir te, à ton secours lorsque tu fais l'imbécile, c'est un petit peu. D'accord, t'es sauvé, je veux bien, mais enfin, c'est quand même hyper égoïste, parce qu'il faut voir ce qu'il déguste. Hein. Il déguste bien plus que toi. Hein. Alors bon, je sais pas, c'est pour ça que bon.
C'est mystérieux.
Mais c'est pas du tout mystérieux, c'est parfaitement clair.
Hein. Ah oui, non, c'est clair, je veux dire, dans le mystère de Dieu, certaines âmes sont sauvées par ce que vous racontez là, et puis d'autres ne le seront pas pour d'autres raisons. Hein. Je veux dire, c'est mystérieux dans le sens que le monde n'est pas sauvé.
La plus grosse majorité, c'est l'Église qui dit, ils vont en enfer, la plus grosse majorité.
Ah oui, c'est ce que je dis.
C'est une minorité, là, c'est vraiment.
Non, mais enfin, c'est sûr que le Seigneur n'encourage pas, ça c'est vrai.
Ah non, mais.
Ça n'a pas dit qu'il faut se souvenir, je veux dire.
Hein?
Ils n'ont pas pratiquement trouvé. Ah oui, bien sûr.
C'est le protocole.
C'est vraiment
bon.